Gameblogueuse, Gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog. Cette semaine, pour commenter l'actu à chaud et les sorties jeux qui nous ont enflammés, eh bien, nous avons Julo avec
Salut,
nous.
Ça va? Bien, tranquille.
Super, génial. Nous avons Camille.
Hello.
Évidemment. Et nous avons ce connard d'Angèle qui nous a fait le plaisir de venir.
Salut tout le monde. Ouais. Ça faisait longtemps.
Que t'avait pas longtemps. Accueilli comme ça
Alors, accueilli, c'est un bien grand mot, mais ça faisait longtemps que bon, je n'ai pas venu, tout court.
Oui, c'est vrai que ça fait un petit moment que t'es pas venu dans un podcast. Ouais.
Par contre, l'accueil, il était un peu pourri, mais bon.
Voilà. Tu trouves là qu'il est pourri?
Ouais.
Bon, t'aimes pas ton nouveau pseudo?
Non, j'aime pas sa présence. Non, c'est sa présence, essentiellement.
Pourtant, ma présence, hein, tu vas voir, tu vas la sentir passer.
Oui. On s'est changé les signatures des articles en mettant ce connard d'Angèle à la place d'Angèle David.
Ça peut être pas mal, hein. Bah, mais à ce moment-là, on fait ça avec tout le monde.
D'accord, voilà. Et on met quoi pour moi?
Ouais, t'inquiète, on va trouver.
Footix?
Pourquoi pas?
Voilà. Ah, tu ah oui, c'est vrai. L'attention est à son comble au moment où on enregistre ce podcast. Vous ne le savez pas, mais dans quelques heures se tiendra PSG Real. Non, c'est Real PSG.
Real PSG.
Real PSG, match aller de la Ligue des Champions. Qui évidemment.
Voilà, attends, il a prévu son
scellé...
Je rêve.
Qui pourrait sceller la fin d'une amitié.
Ah merde.
Et si vous êtes premium, vous pouvez voir que Angèle a déjà prévu le coup.
Ah, il avait rien dit, cet enfoiré.
Avec un accoutrement tout à fait approprié.
J'ai un peu chaud. Ah. En fait, pour tout vous
c'est
dire.
C'est pas le maillot de 93? Non, il était bleu celui-là.
Non, c'est le maillot de 98, si je me souviens bien.
Non, parce que c'est le maillot de 93. Ouais, ouais, ouais.
Mais en fait, pour tout vous dire, en fait, comme on était censé l'enregistrer en live, je voulais en faire un happening. Et là, du coup, comme ça enregistré et que ça va passer, il y a des chances pour que je passe pour
oui,
un gros groupe.
Oui, alors désolé, non, c'est vrai. C'est, non, c'est vrai, on peut dire, on s'était mis comme règle de faire des live podcasts tous les lundis à 18h30.
Ouais.
Sauf que celui-ci, ben voilà, déjà il y a Angèle, donc on pouvait pas commencer à l'heure.
Ouais.
Et ensuite, il y a des embargos, etc., sur les différents jeux dont on veut parler.
Donc, exactement.
Donc on enregistre à l'avance et on diffusera
à la fin de l'embargo le plus lointain.
Ben oui, c'est-à-dire à 15h.
Celui
d'Angèle, putain. Exact. Il peut te faire chier.
Ou pas, je sais plus. Non, c'est peut-être encore après.
Bref. Bon, bref. Donc à quelques heures du match, et si vous le regardez jeudi par exemple, je pourrais avoir l'air.
Non, le match c'est mercredi, mec.
Bah oui.
C'est mardi, quelques heures, le podcast pour les
Embargos, c'est mardi.
Génial.
Ouais. Bon. Donc on aura encore 24 heures peinard avant le match.
Ouais.
Et les embargos, justement, ça concerne d'abord Kingdom Come Deliverance, le RPG qu'on suit depuis des années, le RPG venu de République Tchèque par Warhorse. D'ailleurs, il y a un joli petit reportage qu'on vous a concocté dans les locaux de Warhorse où Camille a pu se rendre il n'y a pas longtemps avec Poufy sous le bras. On va parler un peu de Kingdom Come puisque Camille est en plein dans le test.
Exactement.
D'ailleurs, il n'est pas le seul à y jouer et on essaiera de savoir si on a eu raison depuis le début de faire un check en blanc aux développeurs de Kingdom Come.
Clap, clap.
Ouais, bah écoutez,
le
je
roi
sais
du
qu'il
calembour.
Y a des gens qui rient.
Ah bah moi, j'ai ri.
Oui, intérieurement, oui. J'imagine.
Non, mais tout à l'heure, j'ai ri pour de vrai. Ouais. Après, c'est la deuxième fois que tu me l'as fait. Donc,
Oui, c'est vrai. La deuxième fois, c'est pas mieux. On parlera ensuite de deux jeux en pixel art spécialement dédiés à notre ami André de Villa, à savoir The
deux
Red.
Deux jeux espagnols.
Oui.
Ah bon, ils sont tous les espagnols.
Ouais,
tous les deux.
La scène espagnole à l'honneur. Ouais, ouais.
Ah ouais, tiens.
Un jeu de Valence et un autre de Séville.
D'accord. Et tu préfères quelle ville dans les deux?
Le jeu ou la ville?
La ville.
Séville.
C'est vrai, je connais aussi Séville, j'aime bien.
Donc Séville, c'est qui? C'est Red Strings Club ou...
Non, Séville, c'est...
Crossing Souls.
C'est Crossing Souls.
Donc on parlera de The Red Strings Club et de Crossing Souls avec ce connard d'Angèle. Et puis, nous finirons cette semaine avec un troisième thème dédié cette fois à Sea of Thieves. On en a déjà parlé il y a deux semaines, mais c'était à propos de la bêta fermée. Et cette fois, on a beaucoup plus de biscuits.
Avec
puisque
des infos exclusives.
Camille est allé chez Rare en Angleterre.
Non, mais
dans leur
Camille,
ferme.
C'est notre monsieur visite de studio en fait.
Exactement, il visite tous
c'est
les studios
le
du
mec,
monde.
il s'intéresse à Warhorse, il va chez Warhorse. Il s'intéresse à Sea of Thieves, il va chez.
C'est ça, Rare. Et ça se passe à chaque fois très simplement. C'est on est à la rédac, il fait bon, je vais peut-être y aller. Bon, ouais, si tu veux. Ouais, ok, d'accord. Puis il y va, il sonne, et puis les mecs ils font bah ok, si tu veux, tu rentres. Et puis Camille il y va, il prend sa bière.
Alors là, ce qui est très intéressant quand même, c'est qu'on va avoir pour Sea of Thieves, alors pour Kingdom Come évidemment, on va avoir tout l'avis éclairé de Camille parce que ça fait quand même que t'as joué quoi là, au moins une bonne dizaine d'heures déjà depuis vendredi.
Plus même.
Même plus. Ouais. Mais pour Sea of Thieves, on a tous joué à la bêta, on a kiffé, mais. Il manquait plein de trucs dans la bêta et Camille a vu la version quasi définitive du jeu.
Il y avait des zones d'ombre et disons qu'on les a un peu
cassées. Et donc il a un peu réponse à toutes les questions qu'on se posait, ça c'est cool.
Tout ce qu'on pourrait voir dans une bêta ouverte qu'on soupçonne fortement,
Camille, j'espère qu'ils vont faire une bêta ouverte, putain.
Oui, mais c'est déjà prévu, c'est bon. Mais c'est annoncé.
Ça y est, c'est annoncé.
Ça a fuité, donc on sait que. Enfin, c'est encore une rumeur, mais ça a fuité, donc on sait que ça va être plus ou moins.
Super. Moi, j'ai 15 000 questions à te poser, je te préviens.
Bon, et ben on verra ça tout à l'heure, mais d'abord, comme vous le savez, il y a les gagnants et les perdants chaque semaine dans l'actu du jeu vidéo. Et on va commencer avec le gagnant cette semaine. Le gagnant, mon cher Camille.
C'est oui, ça concerne GTA 5.
Ah bon, GTA 5 gagnant, je vois pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe?
En fait, comme vous le savez, à chaque fin d'année, bah, il y a les bilans comme financiers. Mmh. Donc là, il y a Take-Two qui a annoncé
la maison mère de Rockstar.
Exactement, qui a annoncé tout ça devant les investisseurs. Et il se trouve que GTA 5 a atteint les 90 millions de joueurs. Vous imaginez un peu ça, c'est juste hallucinant.
De vente, hein.
De vente. Et du coup, c'est le.
De jeux distribués, je crois.
Ouais, de jeux distribués. Mmh. Et du coup, c'est le troisième jeu le plus joué aux États-Unis en 2017. Voilà. Rien que ça.
Ce qui est quand même assez fou.
Et autre nouvelle.
Pour un jeu de 2013.
Ben ouais, et autre info aussi, qui va faire plaisir à beaucoup de gens, pas forcément au public, c'est que les microtransactions marchent du tonnerre sur GTA.
Ah bah tiens.
Et du coup, à mon avis, ça va les pousser à réitérer l'expérience pour Red Dead. On sait déjà qu'il y en aura, mais elles vont sûrement reprendre cette forme-là qu'il y avait eu pour GTA 5.
Les microtransactions qui sont quand même aussi au cœur du bilan financier d'Activision.
Bah de tous les éditeurs. Hein,
puisque 50% des revenus d'Activision l'année dernière, c'est des microtransactions. Donc nous, et puis les quelques personnes à chaque fois qui viennent sur les forums pour dire « Ah, les microtransactions, je leur chie dessus, sortez les fourches, etc. »
Et puis dès qu'il y a un jeu qui leur plaît, hey, « j'achète !»
Finalement, on
comme
peut pas grand-chose.
Traz a dépensé 50 euros dans Fortnite, sachez-le.
Non, mais Traz, il est...
Mais après, les microtransactions, c'est aussi un peu le principe du game as service, quoi. Et justement, GTA, ça a été, c'est un peu les premiers à avoir lancé... à avoir lancé le mouvement, tu vois, parce que GTA Online, c'est le jeu qui est ultra à chaque fois ultra suivi, mais il rajoute toujours du contenu à tire l'arigot, quoi.
Ah oui, il y a un suivi sur GTA.
Et ça justifie les microtransactions, etc. etc.
Et on se souvient que
on parle de 500 millions de dollars en transactions, ça fait quand même pas mal de thunes, quoi.
Bah à l'époque, c'était la mode des abonnements. Maintenant, les abonnements sont plus vraiment d'actualité, mais du coup, il y a les microtransactions qui remplacent, et puis c'est un autre principe de pouvoir suivre un jeu sur le long terme.
Ouais.
Donc voilà, mais on va pas faire un débat là-dessus aujourd'hui. Mais
non, mais on oublie de commenter le truc principal quand même, c'est que, enfin, je veux dire, 90 millions,
c'est
de
juste
jeux,
énorme.
C'est-à-dire que.
Troisième jeu le plus vendu de tous
les
temps.
Voilà, mais il est derrière des jeux qui sont Tetris,
et Minecraft.
Et il est passé devant Wii Sports.
C'est tout.
Wii Sports, c'est derrière.
Ah, Wii Sports,
attendez,
il y a des mois.
Mais Wii Sports, c'est derrière. Wii Sports était vendu avec les Wii,
avec les Wii
aux États-Unis et en Europe.
Ouais.
C'est complètement dingue.
C'est
un succès qui sera jamais atteignable par. Mais je pense même que Red Dead Redemption ne fera pas ce qu'a fait GTA.
C'est un super long seller.
C'est complètement dingue.
D'ailleurs, s'il fait 20 millions, déjà, ça sera beaucoup. Il faut savoir que le premier s'est vendu à quoi, 8 millions, 10 millions d'exemplaires.
C'est
pas du tout le même public.
Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Là, il est en train de battre des records qui seront pas battus
après,
avant.
C'est plus une question, mais est-ce qu'il y a aussi des opérations, des promos, des trucs comme ça qui fait qu'il est vendu, qu'il a été vendu à un instant T à 5$
Quasiment pas.
Non, c'est le mode en ligne qui a totalement relancé, parce que vous vous souvenez que le jeu n'était pas sorti avec son mode en ligne et qu'il est arrivé à plus tard, et que depuis, il l'alimente.
Parce qu'il a permis de vendre des consoles aussi.
Et puis putain,
tu vois, en vendre beaucoup déjà, c'est bien, mais si t'arrives à les vendre en plus plein pot, c'est-à-dire, tu vois, enfin sans hors promotion, là t'es un artiste.
Ah, puis tu vises toutes les plateformes. Sur PC, c'est un carton aussi. Enfin, c'est
un gros carton d'options. Parce qu'il continue sur Steam
à
plafonner entre la troisième et la deuxième place.
Sur Steam, c'est complètement fou.
C'est un putain de
jeu. Je me rappelle qu'on disait qu'il allait s'en vendre 10.
Ce qui prouve encore une fois qu'à mon avis, Red Dead a tout intérêt à sortir sur PC.
Voilà, oui, mais c'est mort.
Honnêtement, je pense qu'ils vont pas faire la même erreur que pour le premier.
Non,
je pense qu'ils vont sortir.
Pas tout de suite.
On va faire un pari si tu veux.
Ah non, mais le premier est pas sorti, donc à moins qu'ils le ressortent.
Ça veut rien dire.
Ils feront comme GTA, ils le sortiront quelques années plus tard.
Pour moi, c'est ça, ouais. J'en suis persuadé.
Pour l'instant, je suis pas sûr. Bon, on verra bien. Bref, c'est bien pour GTA quand même.
Bravo GTA.
C'est beau.
C'est beau.
Bravo GTA.
Mais après tu retrouves justement, un des problèmes, c'est à savoir, il ne faut pas mettre non plus tous ces deux dans le même panier. C'est-à-dire que GTA, c'est bien, ça cartonne, mais le jour où ça cartonnera pas. Et c'est pour ça que du coup, il faut aussi pousser le Red Dead Redemption pour avoir une sorte de backup en cas de gros flop, tu vois, si un jour.
Tu vois vraiment un jour GTA floppé ?
Bah pourquoi pas, tout peut arriver.
Non.
Enfin, en tout cas,
s'il faisait comme tous les autres éditeurs qui sortaient un GTA par an avec peu de nouveautés,
là, le prochain GTA, s'il sort, c'est dans 3 ans. et dans 3 ans.
C'est sûr que justement, vu la manière dont ils sont en train de gérer leur truc avec GTA Online, ouais, voilà, clairement,
que,
ce sera très.
Parce que Rockstar, c'est un peu comme Blizzard, tu vois, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils sortent les jeux quand ils sont terminés, quand ils les ont bien remplis, et puis ils sont quasiment assurés.
À chaque fois, la qualité, elle est là. Voilà. Je peux rien dire.
Ouais.
Franchement, d'un point de vue économique, tu peux pas non plus baser tout ton business sur une seule, tu vois, sur une seule licence.
Ouais,
tu vois, après ça coule de sens. Tu vois, ça coule, enfin.
De source.
Ouais. Merci. Oui. Mais ce serait toujours mieux d'un, enfin, c'est bien d'avoir une licence qui cartonne, mais il faut toujours pas avoir un backup quoi qu'il se passe. Et du coup, enfin, c'est à mon avis Red Dead Redemption est fait dans cette optique-là.
Bon, non, il y aura peut-être Table Tennis.
C'est une remarque qui ne manque pas de bon source, de bon sens, pardon.
Ah, bravo. C'est pas bien de se moquer. Cet homme est espagnol,
après,
il est pas français, ouais. Donc il a le droit de faire des erreurs.
Après, c'est comme EA avec FIFA. Enfin, ils ont un trésor de guerre tellement important qu'ils peuvent se permettre à la limite de faire des jeux qui bident. Enfin, ils peuvent se le permettre dans le sens où si ça arrive,
chez Rockstar, je sais pas comment c'est possible.
Bah oui, en plus de ça,
tant qu'ils gardent cette politique-là, il y a pas de raison.
Non, mais c'est le genre de studio qui peut du coup se permettre de prendre des risques parce qu'ils ont un trésor de guerre. C'est comme Microsoft, quoi. Ils ont un trésor de guerre tellement puissant qu'ils peuvent se permettre de faire des jeux. Un peu ovni comme Sea of Thieves qu'on verra tout à l'heure.
Très bien. Bon, il n'y a pas que des bonnes choses dans la vie, il y a aussi
des fails.
Des échecs.
Il y a des fails, effectivement. Et on parlait de microtransactions tout à l'heure, ça pourrait faire presque
un écho.
Une transition. Parce que, effectivement, le fail de la semaine est accordé à, roulement de tambour, Electronic Arts.
Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Eh bien, figure-toi, mon cher Plumeau, que dans le classement annuel de USA Today aux États-Unis, Electronic Arts.
Le classement annuel de quoi ?
Dans le classement annuel des entreprises les plus détestées aux États-Unis.
Ah.
Electronic Arts est arrivé quand même cinquième cette année. C'est mieux que les autres années. Hein. Là, ils ont fait plus fort. Et surtout, on ne peut pas imaginer autre chose que.
Le scandale de Battlefront.
Le récent scandale de Battlefront qui a connu un lancement difficile, c'est pas peu dire.
Les fermetures de studios,
ouais.
Le Mass Effect Andromeda qui était un peu bâclé, toutes ces histoires-là. En fait,
pas une grande année pour Electronic Arts et ça s'est donc ressenti dans ce classement. Voilà, on n'imaginait pas qu'il pouvait être dans un tel classement,
mais il y a qui d'autre dans le classement, parce que là,
la question c'est à qui on a posé la question pour obtenir ce classement,
aux Américains.
Non mais d'accord, mais au public en général ou des mecs dans la société, des mecs qui font partie
de
machin.
Alors je n'ai pas les détails du nombre de personnes qui ont été
parce que par exemple c'est est-ce qu'on
a interrogé des gens de chez Activision,
est-ce que c'est l'entreprise la plus testée pour laquelle tu ne veux pas travailler par exemple.
Non, c'est plus pour l'image de marque, etc.
Mais tu trouves qui d'autre dans ce classement ? Parce que là,
Qui
est
numéro 1 ?
Tu m'es sorti de la tête et que tu es en train de me poser une question piège.
Je
te remercie de me piéger. Hein,
non,
c'est
parce
sympa.
Que c'est vraiment fou de penser à Electronic Arts devant ou avec des sociétés qui, à mon avis, ont peut-être une aura beaucoup plus importante.
En tout cas, ce qui était expliqué dans USA Today, parce que les
classements... Ça, c'est le mec qui botte en touche.
Non, non, les classements étaient commentés. Non, parce que c'est ça, au moins j'ai l'information. Ce qui était beaucoup mis en avant par le journal, c'était les rachats de studios qui détériorent en fait les licences qui appartiennent à ces studios, qui même aboutissent à des fermetures de studios. Enfin bref, le côté un petit peu destructeur de la grosse boîte qui rachète les petites et qui en fait de la merde. Voilà. C'était un peu ça l'idée.
Et donc les autres nommés dans la catégorie les plus détestés sont.
Alors,
ouais.
20e, The Weinstein Company, évidemment.
Ah, tiens, bizarre.
Tu vois, 19e, qui arrive avant.
19e, United Airlines, qui on le sait est une des compagnies les plus détestées.
C'est en gros, il vaut mieux tabasser un passager que de sortir un mauvais jeu.
18e, Facebook.
Ouais. Bon, on peut aller en haut du classement.
17e, hein. CenturyLink, que vous connaissez pas.
Ouais.
Monsanto, vous connaissez pas.
Monsanto, on connaît pas.
Monsanto, on connaît
avec
pas.
Leur putain de.
C'est
pesticides.
Pas parce que toi tu connais pas que les autres ne connaissent pas.
Comcast, je ne connais pas.
Voilà.
Tu vois, Uber, 14e.
Ouais, c'est un vrai connard.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
C'est exact.
13e, Sears Holdings.
Ouais. Et si t'attaquais
12e, The Trump Organization.
Ouais, ok. Tu veux pas. Voilà. Tu veux tout
bah non, mais c'est intéressant quand même.
Ah, bah c'est super. Ouais.
11e, Wells Fargo.
Ouais.
10e. De toute façon, je dois scroller. Donc il faut bien que je vous dise.
Ouais, bah
voilà.
Scroll,
10e, top, on arrive dans le top 10. Signia. Ah.
Quoi ?
9e, Signia.
Ah, d'accord.
Spirit Airlines.
Ouais. Ah ouais, Spirit Airlines, c'est des salauds.
Ah, 8e, Vice Media.
D'accord.
Voilà. 7e, Sprint. Sixième, Foxconn Technology Group.
Ok.
Qu'on connaît du coup pour le coup. Cinquième, Electronic Arts. On okay. disait un instant. University of Phoenix pour quatrième. Okay. La NFL, troisième.
C'est étonnant. La
Fox Entertainment Group, deuxième.
Voilà.
Et attention.
Michel et Augustin en premier.
Non, Equifax. Non.
Hein ?
Je ne sais même pas ce que c'est.
Ouais. Equifax ?
Ouais.
Bah, il doit faire des fax.
Ouais.
Équitables.
Ouais. Des fax équitables. Voilà. Du coup, ça ne plaît pas du tout. Ouais.
Bah écoute, c'est très intéressant ce classement.
Ah, c'est passionnant.
Bah je sais pas, vous m'avez demandé qui sont les autres. Moi j'aurais répondu à votre question. Moi je trouvais pas ça intéressant, mais.
Bah alors pourquoi
vous m'avez posé la question ?
Un fail, genre écoutez une.
Bah parce que cinquième Electronic Arts, ça c'est intéressant.
D'accord.
Et toi tu t'en fous ? Et moi je m'en fous de toi aussi. Voilà.
Ah, ah
putain, c'est très parti, incroyable.
Ouais, c'est incroyable tous ces miroirs.
Bah, allez,
mais par contre, tu vois, tu peux le mettre en perspective justement avec. Je crois que c'était la semaine dernière où tu racontais comment Microsoft allait peut-être acheter Electronic Arts.
Tu nous as écouté la semaine dernière, c'est sympa.
Ouais, ouais, ouais. Alors j'ai failli décrocher au moment du jingle parce que. Il
y a pas des jingles.
Mais du générique.
Il faut savoir, Angèle déteste le générique. D'ailleurs, bah faisons un petit.
On est deux, hein. On est deux.
Vous êtes deux.
Ah, moi j'ai toujours.
Et bah, demandons aux gens qui nous écoutent.
Bah vous pouvez.
Si vous détestez le générique, n'hésitez pas à mettre un plus 1 à cette.
Exactement.
Voilà, à cette déclaration.
Soutenez notre combat avec Angèle.
Et donc s'il y a assez de plus 1, vous changez le générique.
Voilà. Vous et composez vous-même le générique.
D'ailleurs. Et on peut faire la même chose avec les personnes. C'est-à-dire que si vous détestez Julo, au bout d'un moment, rajoutez des plus 1 et paf.
Ah ouais, c'est ça, tu veux me dégager.
Par exemple.
C'est pour ça que tu caressais la boiserie tout à l'heure.
Ouais.
Alors qu'il t'a offert une bière quand même.
Ah, je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais bon, bref.
Bon. Bah écoutez, on va passer au premier thème de la semaine. Je pense qu'il est
moi
temps.
Je me casse. Voilà.
C'est vrai ? Bah casse-toi, va chercher une autre bière pour Angèle, comme ça il sera chaud. Alors, Kingdom Come Deliverance qui sort ce mardi 13 février sur PS4, Xbox One et PC. Ouais. Camille, tu as eu l'occasion d'y jouer beaucoup.
Mais j'ai pas eu l'occasion de le finir, puisque comme vous le savez, c'est une énorme durée de vie. Et du coup, bah, à l'heure où on enregistre ce podcast.
Ouais.
Eh bien, je suis loin, on va dire le mot loin, oui, d'avoir fini le jeu.
Pourquoi combien d'heures t'as fait là déjà ?
J'en suis à 20 heures.
Ah oui, j'en suis à 10. Ouais. Et j'ai rien vu.
Mais en plus, le pire, c'est que j'en suis à 20, soit deux fois plus que toi, et pourtant, je suis pas hyper.
Ça vous paraît
toi, en fait, c'est ça qui me paraît.
Ça vous paraît plus vaste qu'un jeu du type Skyrim, etc.
Non. Que Skyrim, oui, parce que Skyrim, en même temps, non. Skyrim, le contenu de base était assez chétif, quoi.
Oh, ouf.
Faut le dire vite fait, quand même.
Non, moi, je trouve pas.
Moi, je m'élève en.
Par rapport aux normes de maintenant, excuse-moi, Skyrim, c'est à tout basé, sur les mods, quoi. Mais honnêtement, le contenu de base, pour l'époque, c'était ouf, mais maintenant.
Bon, peu importe votre avis sur Skyrim, en tout cas, par rapport à Skyrim, là, on est sur
un contenu plus pléthorique. On va prendre The Witcher 3, qui est un peu plus récent. Par rapport à The Witcher 3, effectivement, c'est un peu plus long, mais voilà. Mais The Witcher 3 était très long aussi, donc.
C'est vrai.
Mais donc durée de vie, donc ça, vous inquiétez pas, c'est pour ceux qui aiment les jeux chronophages, bah là, vous allez être servi parce que vraiment. Je pense, franchement, sans mouiller, qu'il y a au moins 90-100 heures de jeu facilement.
Ah oui, mais pas en ligne droite. Tu veux dire
pas en ligne droite, en comptant les.
De toute façon, est-ce que c'est simplement possible de jouer ce genre de jeu en ligne droite ?
Mais de toute façon, c'est pas un jeu. Oui, voilà. Déjà, c'est un jeu qui n'est pas pensé dans cette optique.
Il y a quand même une quête principale.
Alors, il y a une quête principale, mais le jeu n'est pas pensé pour uniquement faire la quête principale et puis basta, quoi. En fait, à chacun des moments du jeu, on a une quête secondaire qui nous dit qui est intéressante déjà. Ça faut le souligner. L'histoire de base est intéressante, donc. On nous pousse à aller plus loin et à aller fouiller dans le décor, etc. Et justement à découvrir des petites surprises, quoi.
Oui, alors justement, parlons-en. C'est du RPG pur et dur.
Ouais.
Tu le disais, on nous pousse un petit peu à fouiller partout. Il y a une bonne raison à ça, c'est que tu as des stats pour tout.
Exactement.
Et que tu commences... Ouais. Alors ça c'est mon avis.
Ouais, c'est ton
avis. Es un nouveau-né. tu es une merde, une larve. Tu n'es fort, tu ne sais pas, tu ne sais rien faire. C'est limite si tu gagnes pas des points d'expérience parce que tu marches. C'est genre, ah tiens, tu sais marcher, t'es niveau 2 en marche.
Ouais,
c'est un petit peu ça. Bah, même s'il y a des choses très intéressantes.
Merde, tu sais faire du cheval, tu sais te battre.
Voilà, t'apprends. Alors ces choses-là, c'est normal. Et lire et écrire aussi. J'ai trouvé ça très très intéressant.
Ouais.
Parce que c'est partie des choses que tu dois apprendre.
Ouais.
Vu qu'au Moyen-Âge,
voilà,
personne ne savait lire et écrire sauf dans la noblesse.
Exactement.
Ou dans le clergé.
Dans le clergé, voilà.
Sans parler aussi du fait que tu ne sais pas nager. Ouais. Et ça, je sais pas si on l'apprend ou pas, mais tu sais pas nager. Et il te le dit. Il te dit, ah, c'est con, je sais pas nager.
Mais il y a plein de trucs comme ça qui viennent en fait. Ouais. C'est vraiment un RPG old school pour cet aspect. C'est-à-dire qu'effectivement, on a énormément de barres différentes d'expériences. Et du coup, on va apprendre petit à petit. Alors, je suis pas aussi catégorique que Plume à ce niveau-là. Effectivement, il y a certaines choses que tu ne sais pas faire, mais tu sais déjà te battre, tu sais monter à cheval, etc. Et comme il disait aussi, effectivement, le fait d'apprendre à lire, par exemple, c'est, je trouve ça un fait vraiment intéressant. Voilà, t'es au Moyen-Âge, ouais. Donc t'es quelqu'un de
basse extraction. De forgeron,
voilà,
quoi,
t'es de basse extraction, tu n'es pas censé savoir lire. Et ça, c'est, enfin, je trouve ça, c'est
extraction. Et concrètement, ça t'apporte quoi?
De savoir lire?
Enfin, pas dans la vie en général, dans le jeu.
Eh bien, dans le jeu, tout simplement.
Parce que tu voudrais apprendre, peut-être, c'est ça?
Ouais, j'ai du mal. Mmh.
Tout simplement, en fait, parce que tu apprends différentes recettes dans le jeu pour ensuite faire de l'alchimie. Ensuite, tu as certaines quêtes qui sont au sein de l'église, où du coup, tu peux apprendre certaines choses que tu ne pourrais pas faire si tu ne sais pas lire. Tu apprends certaines informations, etc. Et du coup, enfin, sans
spoiler... quoi concrètement quand tu as les livres sous les yeux, du coup
En fait, c'est dyslexique.
Ouais,
c'est
voilà,
toutes les lettres sont inversées.
Les lettres sont inversées.
Et du coup, à déchiffrer, c'est vraiment très compliqué.
C'est compliqué et c'est vraiment bien pensé pour ça.
Bah, je veux dire, moi, je trouve cette idée juste géniale.
Ouais, moi, je trouve ça super cool.
Et le fait de savoir nager, ça se passe comment? Genre, tu sautes dans l'eau
à mon avis, tu t'apprends jamais à nager.
Bah, de toute façon, honnêtement.
Avec une armure de 90 kg sur le dos,
ouais, tu peux enlever ton armure dans le jeu.
Déjà, les armures ne faisaient pas ce poids-là. Surtout à cette époque-là, c'était les armures les plus lourdes, c'était au maximum entre 25 et 30 kilos.
C'est déjà énorme.
C'est pas mal.
C'est déjà la moitié de mon poids. Donc,
mais réparti sur tout le corps, attention.
Le saviez-vous?
Ah bah Camille est souvent est beaucoup plus calée sur ce jeu. Et assez calée sur ce genre de trucs. Ouais.
Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui,
le week-end, il se met en armure.
Exactement. Mmh. Bon, déjà,
il
apprendre à nager.
Chez lui en armure. Voilà.
Apprendre à nager.
Pendant que Jello, il fait les trucs de cow-boy, les danses là dans Bretagne avec.
Oui,
avec
c'est
les
ça. Gens.
Non, Jello, parfois, il fait des mariages médiévaux.
Exact, exact. Ouais,
mais
c'est médiéval.
Mais tu sais qu'on rigole, mais il y a beaucoup de gens qui font ça.
Mais j'ai vraiment fait un mariage médiéval.
Voilà, c'est, ouais.
Mais c'est vrai. Que...
C'est quelque chose qui.
Je donnerais tout pour faire des photos.
Tu es habillé en conséquence ou...
Bah oui, bien sûr. J'ai été dans une boutique assez connue à Paris, apparemment, qui est spécialisée dans les costumes médiévaux. Donc, moi-même et mon épouse, nous sommes habillés en paysans de l'époque. On n'était pas en armure.
La chute excellente.
Bah, parce que en armure et tout ça, 30 kilos, pour moi, c'est un peu trop quand même. Non, mais tu trouves ça juste. Ouais. Non, ça va, 30 kilos.
Bah, et ça consiste en quoi le déguisement de paysan?
Bah, c'est.
C'est-à-dire, tu mets des vieilles godasses
Oui, non, alors les godasses, j'ai plus ce que j'avais pris. Des bottes, ouais, je sais plus. Mais après, c'était une chemise à la con en toile de jute, je sais pas quoi. Enfin, c'était. Voilà.
Ok.
T'as des petits chapeaux?
J'ai pas de chapeau, je crois pas.
Non, t'as une petite calotte sur la tête. Mais c'était très, très à la mode à cette époque-là.
Ah oui?
Ouais.
Bon, alors, reprenons un petit peu sur
tout
sur
ça pour
le
dire
jeu.
Que du coup, apprendre à nager, ça sert pas de façon excessivement à grand chose, puisqu'il n'y a pas de grande. Enfin, on n'est pas au bord de la mer, donc de toute façon, voilà, il n'y a pas de lac spécifique. Il y a de temps en temps des rivières, mais de toute façon, on a pied, ou alors les zones où on n'a pas pied, il n'y a pas d'intérêt à y aller. De toute façon, nager, voilà, c'est pas un intérêt primordial dans le jeu. Mais voilà, effectivement, d'apprendre à le faire, c'est quand même plutôt pas mal, comme tout le reste d'ailleurs, même à cheval, en fait. On sait faire du cheval hein, au départ, mais pour améliorer les caractéristiques de son cheval et en même temps les siennes, donc on apprend, on a une barre d'équitation qui augmente petit à petit. Mmh. Et en fait, tout ce qu'on va faire, ça va faire monter nos barres en conséquence. Donc si on se met
même
à courir,
les dialogues, hein.
Même les dialogues. Par tout. Exemple. Si, à force de discuter, on va gagner en éloquence. Si on réussit nos dialogues, ou sinon, au
c'est
contraire,
quoi, c'est comme des joutes verbales. Il y a des bons choix et des mauvais choix.
Ouais, en gros, si par exemple la personne en face repère à plusieurs reprises que t'es en train de mentir, bah du coup, ton éloquence va pas forcément monter rapidement. Ou si
il faut choisir le ton adapté à la situation.
Et t'as des trucs comme The Witcher, par exemple, quand t'as fait des conneries dans un village, et bah tu vas être connu
alors,
comme le loup blanc dans ce village.
C'est encore pire que ça. C'est que The Witcher.
C'est abusé, vieux. T'es plus contrôlé qu'à Sarcelles quand quand t'as fait une connerie dans un village,
non, mais
t'es contrôlé, mais genre tous les jours, il y a un garde qui arrive vers toi, tu sais pas d'où il sort. Le mec il fait
qu'est-ce que tu fous là toi?
Tu choisis de fuir ou de te rendre, et le mec il dit faut que je te fouille. D'accord, mais pourquoi? C'est comme ça, faut que je fouille. Ok, d'accord.
Et après, tu t'en rends. Un exemple tout con vraiment pour rebondir sur ce que dit Plume, à un moment je me balade en forêt, je vois une carcasse de daim par terre. je décide, bah voilà, évidemment, on peut chasser dans le jeu, on peut chasser dans le jeu et on peut du coup la dépecer pour ensuite se nourrir, se sustenter ou alors vendre la viande pour récolter quelques pièces.
Viande qui pourrit très vite dans le jeu.
Qui pourrit très vite, ouais. Et du coup, on peut. Donc, je me suis amusé donc à récupérer cette viande et puis là, il y a un mec qui sort de nulle part. C'est vrai en plus.
Oui, c'est le chasseur, mais moi aussi, il est venu me voir.
C'est un chasseur et là, il dit. Ouais, qu'est-ce que vous faites, machin?
C'est ma viande, merde.
Non, mais c'est ça. En fait, parce que en fait, à l'époque, c'était interdit de chasser sur les terres royales. C'était pareil. Partout dans le, c'était du braconnage. Ouais. Il y avait que les nobles qui avaient le droit de chasser. À part le lièvre. Le lièvre était, c'était acceptable de chasser le lièvre, même si on était paysan.
Et donc dans le jeu, tu peux chasser le lièvre.
Tu peux chasser le lièvre, oui.
Non, mais excusez-moi, je me fais une petite parenthèse, mais moi, ce qui me fascine dans ce jeu, c'est le côté
authentique,
au dernier degré des développeurs. Et c'est là que tu vois que c'est un jeu Kickstarter, parce que les mecs, ils ont voulu faire, ils avaient une vision.
Et que c'est un jeu de check aussi.
Un jeu comme ça aurait jamais passé le cap du discours à l'éditeur qui doit financer le jeu, etc. Et ils auraient dit non, faut que ce soit plus facile. Ouais. Là, tout est lent, tout est calqué sur la véritable histoire. Ouais. Bah, si, un peu quand même.
Est-ce que tu peux faire un choix de personnalité, à savoir, est-ce que le but à la fin, c'est d'être quelqu'un de super érudit et qui sait super moins monter à cheval, ou tu peux décider d'être un con complètement
analphabète? T'as une mission de départ qui est venger tes parents. Mais après, tu peux parfaitement. Je crois que tu peux vraiment décider de ton alignement pendant le jeu, de savoir si tu veux plus. Avec toutes les stats à la con que
c'est en gros, est-ce que tu peux décider d'être un affreux connard?
Oui, tu peux. Oui. Tu vois, évidemment, tu peux. Voilà. Mais bah par exemple là,
ça lui plaît. Il y a un sourire là.
Le sourire malsain. Par exemple là, pour l'histoire du braconnage, t'as une multitude de choix qui s'offrent à toi. Soit tu prends la viande, tu dis non mais c'est pas moi. Enfin tu mens en gros au mec qui surveille. Tu dis non.
Tu peux le convaincre que c'est pas toi.
Tu peux le convaincre que c'est pas toi. Mais il est pas dupe et du coup il devine vite fait les choses.
D'autant que c'est pas toi.
Il t'explique. Ouais. Donc il t'explique.
Si tu l'as trouvé.
Il t'explique. Et si le mec tu le cherches, il va ensuite porter plainte au bailli de la ville, et ensuite tu vas avoir une mauvaise réputation par rapport à la ville. Et du coup, par exemple, certains marchands vont être plus récalcitrants à te vouloir te vendre des choses, ou alors certaines personnes vont pas te donner de quête. Ça peut aller jusque là. Et au contraire, tu peux décider, si le mec tu veux récupérer la viande sans te faire chier, tu peux pendant qu'il court, lui mettre un lacéné d'un coup de poing, et puis le mec, l'assassiner.
Il y a un truc que j'ai trouvé très chelou à ce sujet, c'est que où que t'ailles, si t'as des marchandises voler ou braconner sur toi, les marchands, tout le monde le sait.
Ouais.
C'est-à-dire que tu peux pas les revendre.
Ouais, parce
ou alors on te dit, mais attends, c'est volé ça. Mais comment tu sais que c'est volé? Tu m'as suivi, qu'est-ce qui se passe? Il y a une caméra.
Il y a une super traçabilité, mec.
C'est un défaut ça.
Non, il y a deux trucs en question. Il y a effectivement un truc qui était un bug dans la version à laquelle on a joué, mais qui a depuis apparemment été résolu.
Vraiment, il y a eu une grosse mise à jour de 20 gigas. Ouais.
Alors il y a 23 gigas sur PS4 et Xbox One.
Et nous, c'est 25 à peu près sur PC.
Ouais, c'est 25 et dont au moins 5 vraiment pour résolution de.
Non, mais attends, depuis déjà plusieurs jours, il y a un truc de 28 gigas. Il y en a eu un autre
au moment
encore.
Où on parle sur PC, on est passé à 1.02.
Exactement.
Ouais, c'est ça. Et celle qui s'est installée de base l'autre jour, c'était la 1.0. Hein.
Ouais, mais c'est pareil, la 1.02.
Donc c'est encore
aussi.
20 gigas de plus.
C'est déployé aussi sur PS4.
Donc effectivement. Ce truc qui pourrait être considéré comme un problème, en fait, c'est ce qu'ils voulaient mettre en place, c'est le système de réputation. Donc finalement, les objets volés, on peut pas les revendre. Mais ça va être, sauf à certaines personnes, ça va être accentué. En tout cas,
en tout cas, les mecs qui ont un regard bionique et qui savent.
Non, mais c'est pas à ce point-là non plus. C'est juste que par
ils savent que ta marchandise est volée alors qu'il y a aucune raison qu'ils le sachent.
Non, mais il y a d'autres choses qui sont prises en compte. C'est si par exemple tu as envie de refourguer un objet de grande valeur à un marchand. Et que t'es habillé comme un clodo, là il va se douter de quelque chose. Parce ton habit est pris en compte en fait. En gros, la façon dont tu es vêtu va avoir une influence sur le PNJ en fait. Pareil si t'es sale.
Sur l'image qu'il a de toi et
exactement ce que tu peux faire. Même si tu es sale ou si tu as du sang par exemple, la personne va soit pas te parler, soit au contraire, il y a un truc qui m'a fait rire.
Si t'as du sang, tu peux te laver.
Tu peux
te laver dans le jeu.
Tu peux laver tes fringues.
Tu peux laver tes fringues toi.
Il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que t'as une des caractéristiques, c'est 20% de charisme si tu sens mauvais auprès des femmes. En gros, si tu sens l'homme, il marque en gros si t'as une odeur virile, tu as 20% de charisme par rapport aux femmes.
Ah oui, c'est une des compétences qu'on peut débloquer.
Il y a des trucs qui sont marrants comme ça, tu vois.
Ça grille en furtivité.
Mais si tu schlingues trop, tu peux schlinguer plus que ça.
Par contre, si tu pues vraiment, il y a certaines personnes, notamment les nobles, qui te adressent pas la parole ou qui refusent d'adresser la parole, ou au contraire, évidemment, en furtivité, tu peux avoir certains soucis. Mais pour revenir, là on
trahi par ton odeur.
Ouais, mais c'est vraiment ça. Et pour revenir à ce que tu disais disais tout à l'heure, c'est effectivement un studio tchèque, et le fait que ça soit un studio tchèque, ça change énormément de choses de mon point de vue. C'est-à-dire que bah, du coup, ils peuvent, parce que vous le savez, hein, tous les pays de l'Est, on va pas faire une généralité, mais les pays de l'Est sont quand même, enfin, n'ont pas la même vision du politiquement correct. Mmh. Et du coup, ils ont.
On pense à The Witcher, et la Pologne notamment.
Voilà, exactement. Et bah là.
Je savais pas, c'est moi qui étaient moins politiquement corrects.
Ah bah, c'est vrai, clairement.
Oui. Tu joues à The Witcher, c'est pas la même cam que ce qu'on a chez nous.
Ouais, hein. Ouais, c'est clair. Et.
Un exemple, peut-être.
Ah bah, en termes de thèmes qui sont abordés, la façon dont ils sont abordés, que ce soit du racisme,
oui.
Du sexisme, et j'en passe.
La religion
ou la religion aussi, la religion qui prend très cher Kingdom Come.
Non, bah justement.
Ah, si. La petite séquence avec le prêtre.
Mais non, justement, je trouve pas, parce qu'il y a de nombreux moments. Brink, dans les chargements, il te parle de Dieu, etc. Il y a des choses. Alors, juste.
Bah, j'imagine que la religion est totalement omniprésente.
Elle
parce
est omniprésente.
Que tout est fait au nom de Dieu à cette époque.
Elle est omniprésente, comme tu dis, à certains moments, elle est critiquée, mais elle est pas. Non, elle en prend pas plein la gueule. Au contraire, il y a des moments où justement. Non, je suis pas d'accord.
Oh, bah si, on croise un prêtre qui est d'ailleurs un super passage.
Ah, mais oui, mais parce que ça arrive. Parce que effectivement, ça arrivait à cette époque-là. Mais sinon, la religion, elle est pas spécialement critiquée. Il y a lisse simplement les intertitres qui sont les moments de chargement, tu verras que non, c'est elle est
non
pas
ils
vraiment...
se permettent justement ces critiques là,
ouais.
Qui ne seraient pas forcément
critiquer la religion, critiquer un prêtre qui a telle attitude,
non,
c'est
non,
pas
non.
pareil.
C'est par le biais, il y a deux prêtres en fait qu'on croise, il y en a un avec qui on fait copain, et il y en a un autre qui est beaucoup moins sympa, ouais. Et par ces deux là il y a vraiment une prise de position par rapport à leur religion, qui est par moments assez agressive, mais ça veut pas dire qu'ils détestent ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils se permettent quelque chose qui à mon avis passerait peut-être pas dans d'autres jeux,
c'est ça, ouais.
En Occident.
Mais même pareil, un truc tout con, un truc intéressant, alors pour ceux qui sont premium, vous avez pu le voir dans le menu, en gros on a un codex, et on a mais alors le codex qui est vraiment
impressionnant,
qui nous parle à peu près de tous les éléments de
mais,
vie
mais parce
du
qu'on
Moyen-Âge,
est on est non seulement on est au Moyen-Âge dans une vision réaliste du Moyen-Âge, ouais. Mais on est dans notre monde à nous et dans notre histoire à nous, ouais. À un moment précis, dans un endroit précis. Et d'ailleurs, quand le jeu commence, le premier mot que tu entends, c'est un mot sur la période historique.
Ouais.
Le roi Charles IV qui est mort, son successeur qui fait nimpe, l'envahisseur cousin qui arrive. Cousin, c'est ça ?
Ouais.
Qui arrive, etc.
C'est vraiment fidèle.
Oui, c'est complètement fidèle. Mais c'est pas que c'est fidèle. C'est que c'est malade mental à quel point c'est fidèle. C'est-à-dire que les mecs, tous les détails sur le mode de vie des gens de cette époque-là. Et là, on voit la carte qui est géniale. Ouais, il l'avait montré à l'E3, celle-là, j'ai trouvé ça fantastique.
La carte accélérée, en fait.
Ouais, ouais. En fait, les zones que tu découvres sont visibles, mais avant qu'elles soient visibles, tu vois des nuages et tu vois des dieux, saints de l'époque
qui
sont représentés comme dans les tapisseries de l'époque. En fait, la carte
au fur et à mesure où on découvre la carte, les nuages en fait se dissipent. Ouais. C'est vraiment bien.
Et il y a des interactions aléatoires qui apparaissent avec, par exemple, justement, un gibier qui peut être sur la route, un sanglier qui t'agresse. Des bandits, etc.
Et
un mec
puis,
qui vend des trucs.
Exactement, mais juste pour finir sur la partie politiquement correcte, par exemple, un truc tout con, à un moment, tu rencontres un juif et du coup, t'as un truc sur le codex qui t'explique comment étaient traités les juifs à cette époque-là. Mais tu vois, je pense rien que ça serait pas passé dans un jeu pas en pied ou quoi que ce soit, tu vois.
À part South Park, quoi.
Ouais, voilà, à part South Park.
South Park avec un traitement un peu différent.
Ouais. Là, il y a aucun voilà.
Enfin, en même temps, si ça reste cohérent historiquement.
Ça,
oui, exactement.
Oui, mais le problème, c'est que maintenant,
parfois,
dans le politiquement correct,
ouais.
Y a des choses qui sont même cohérentes historiquement, qui sont gommées pour correspondre à la.
C'est un jeu indépendant, avec des ambitions de AAA, etc. C'est un jeu indépendant quand même, qui a trouvé un éditeur pour la version
avec
physique,
la version physique,
voilà, qui est Core Media, le même que Shenmue 3.
Exactement.
Mais c'est un jeu indépendant, quoi. Et les mecs, effectivement, je pense que ce genre de petits détails, quand t'es Electronic Arts, quand t'es Activision, quand t'es Ubisoft, etc., t'as envie de dire aux développeurs, attendez, on va peut-être s'éviter les ennuis, on va tourner les choses autrement, tu vois.
Bah, par les début de jeu, t'as une.
Alors que là,
de
ils sont bruts.
Ouais, ou alors tu demandes à modifier, tu dis, bon, bah, le mec que tu vas croiser, il est pas juif, il est juste.
Voilà.
Après, j'ai vu qu'il y avait une compétence picole.
Bon, ouais. Absolument, il y a.
Ah oui, alors attends, il faut que tu racontes ça. Tu dois apprendre à résister à l'alcool.
Exactement.
Exactement, tu peux.
C'est comme ça pour tout.
Ça, on n'apprend pas, c'est inné.
On a beau.
Enfin.
Non, effectivement,
ouais,
y a
on
beaucoup,
s'améliore quand même.
Il y a beaucoup d'alcool différent dans le jeu, et du coup, ça en fait partie. On a par exemple, à un moment, il y a des mini-jeux déjà dans le jeu, des jeux dans le jeu. Et du coup, tu peux donc apprendre à résister à l'alcool. On va, pareil, hein, plus tu bois de manière conséquente, plus ton personnage va s'habituer, va pouvoir boire.
Ouais, on en connaît à la rédac des comme ça.
Et du coup, qu'est-ce que je veux dire, voilà, le vice de côté réaliste et aussi poussé sur tout ce qui est combat. Alors, ouais.
Alors ça, c'est peut-être le, si tu veux, le truc. Bah pour les gens comme nous qui sont prêts
qui risquent
à accepter...
de rebuter un peu les consoles.
Voilà, je pense que quand tu vois le jeu et que t'as pas Camille à côté de toi qui te dit non mais attends c'est génial parce que c'est fidèle historiquement, c'est le Moyen-Âge, c'est faut voir les choses sous ce prisme, etc. Les gens ils voient une séquence de combat, Poufi je pense va
ah bah
nous en
mieux,
mettre
il la vive.
Ouais, parce, parce qu'en vrai les combats en armure
mais même
c'est
quand tu
chiens,
la vois bah, les combats en armure c'est lent. Ah ouais. C'est compliqué, c'est voilà au niveau mise en scène, c'est pas extraordinaire quoi. C'est t'as pas c'est pas Bayonetta quoi.
Bah ah non, c'est vrai, on a un peu
les, mecs ils ont des armures, tu vois.
Alors
tu
là,
vas pas
tu
faire
il y a 6 angles de garde et de frappe,
absolument.
Tu vois.
Exactement.
Et donc il faut essayer de calculer comme dans Bushido Blade quelle va être l'attaque de l'adversaire pour soit contrer, soit éviter et
contre-attaquer. Et ton armure a extrêmement d'importance, comme vous voyez, il y a le système de visière si on baisse son la visière de son casque. Et du coup aussi
et surtout qu'il y a certaines visières où tu vois quasiment rien.
Tu vois quasiment
parce
rien.
Que là tu vois plutôt pas mal. Ouais. Il y a des visières où tu as un champ de vision absolument restreint. Tiens, t'as vu, il abandonne le mec là, c'est marrant. Ouais.
Et tu peux parler avec lui ou le lâcher ou le lui piquer cette truc.
Et quand le champ de vision est très restreint, tu as envie d'enlever ton casque, mais le truc c'est que si tu enlèves ton casque, tu te prends un coup d'épée, tu crèves immédiatement. T'as pas de casque.
Ce qui me paraît pas
bah
déconnant.
Ouais. Mais donc, mais dans les jeux, dans les jeux tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est assez radical, tu vois.
Mais c'est pareil,
à l'époque de Bush de Blade, on se disait ah, putain, c'est un peu abusé, mais en même temps, c'est ça qui est sympa.
C'est pareil, t'as trois épaisseurs d'armure. T'as, bah, comme à l'époque, t'as le grand bison. Donc, en fait, le grand bison, c'est la combinaison en fait matelassée qui est en dessous la côte de maille. On est ensuite par-dessus, donc la côte de maille, et ensuite il y a l'armure par-dessus. Donc, il y a trois couches. Et si on enlève une ou l'autre, évidemment, bah, on va être plus sensible aux dégâts. Et ça, c'est vraiment.
Par contre, on marche plus vite, c'est ça
Du coup, t'es beaucoup plus rapide si par exemple t'enlèves une des couches, évidemment. Du coup, ton personnage aussi, s'il est nerveux, il va faire plus de bruit. Enfin, il y a plein de choses qui sont prises en compte. Et aussi, les dégâts. Si c'est une armure, par exemple, une attaque d'estoc ou une attaque
de taille.
De taille, les dégâts vont être différents. Certains types d'armes qui vont pénétrer l'armure et d'autres non. Par exemple, si on se bat avec la pointe de l'épée, on va pouvoir à certains endroits précis de l'armure pouvoir percer et du coup faire plus de dégâts. Pareil avec un arc ou au contraire avec une hache.
Et tu peux tuer en un coup ?
On peut tuer, oui, ça m'est arrivé, on peut tuer
en
un coup.
On peut mourir en un coup, je peux vous dire.
Ouais, aussi, ouais.
j'ai bien vu ça.
Mais toi-même, si tu vises bien, que tu cherches
avec
bien
un
le lance.
Tu peux avec un.
Non, mais un coup d'épée bien placé.
Avec un coup d'épée, oui, tu peux, ouais. Ouais.
D'accord.
Mais il y a plein de choses à apprendre.
Mais hein. Du coup, ils sont stratégiques ces combats, ils sont intéressants ou
oui,
au bout d'un moment t'en auras le bol
non,
que ce soit si long.
Moi pour moi les combats sont hyper stratégiques.
Alors, j'imagine que tu joues au clavier souris.
Ouais.
Comment est-ce que ça se déroule en clavier souris?
Bah c'est tout simple, t'as
pour choisir les angles et tout.
Bah en fait c'est simple, tu fais tourner ta souris.
Ouais.
Mais t'as pas besoin de faire un grand angle en fait, c'est simplement un petit angle avec ta souris et tu choisis l'angle d'attaque ou de parade.
Le jeu a plutôt été développé pour être joué à la manette. Hein.
Non, c'est le contraire. En fait, le jeu a été pensé de base pour sortir sur PC. En fait, c'est venu plus tard où ils ont décidé de dire tiens, on va faire une version console. Mais
parce que dans ton reportage vidéo là qu'on vous recommande vraiment de regarder, vous tapez Visit Studio War Horse ou Visit Studio Kingdom Come, vous allez tomber dessus. Allez voir, mais on voit beaucoup que ce soit en playtest, même en debugging, développement, etc. Ils sont tous à manette.
Enfin, je veux pas me trop m'avancer là-dessus, mais je pense que la version PC est peut-être plus polie sur certains aspects et que justement ils sont en train de
débugger plutôt la version console.
Ils sont en train de débugger plus la version console. Enfin, c'est ce que j'avais compris.
Donc toi de ton côté, souris clavier, ça marche bien.
Pour moi, la souris clavier marche très bien, mais après, j'entends tout à fait ton point négatif.
Parce que manette, c'est le temps de réaction.
Toi, tu joues à la manette.
Ouais, je me suis mis à la manette et le temps de réaction pour le tout. Alors après, on revient sur le fait que le héros, encore une fois, il sait rien au début et que j'ai que 10 heures dans les pattes et qu'il sait pas se battre, etc. Que c'est un bébé.
Parce que tu progresses vraiment, tu deviens plus rapide, plus fort, etc.
Oui, oui. Oui, puis t'apprends des trucs au fur et à mesure. Il y a des mecs qui
mais
vont t'apprendre des
bottes.
Mais
tu le sens physiquement dans ton personnage
ton personnage au début, il peut avoir une armure sur lui, mais du coup il va se dépasser très lentement. Il va avoir du mal à supporter la charge.
Et surtout la stamina, elle baisse à une vitesse.
Et comment du coup il devient plus fort?
À force de se battre, il va gagner en muscle et du coup il va à force de faire
du. Et du coup après tu marches plus vite avec ta armure.
Et après tu marches, tu supportes mieux ton armure et tu peux marcher plus vite et faire des mouvements. Des attaques plus.
Bon, de toute façon, je vais creuser parce que je suis parfaitement à fond dedans et que je vais continuer à y jouer. Mais j'avoue que de mon côté, les combats, je les trouve vraiment laborieux.
Bah,
voilà.
Le truc, c'est que c'est difficile. J'ai beaucoup de mal à juger là-dessus parce que je sais, moi en tout cas, ça me convient parfaitement. Je sais pertinemment, mais je sais, comme tu dis, qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer cette partie-là.
Bah, en tout cas, ce qu'on peut leur conseiller à ces gens, c'est au moins attendez qu'on vous apprenne à faire des parades et à faire des pas de côté. Ça devient un peu plus intéressant.
Mais surtout, attendez d'avoir une épée, parce que les premières heures, on a un gourdin et une hache.
Épée.
Quoi.
Ah ouais.
Bah, en fait, après, ça rentre dans
le. Comme Gran Turismo quand tu commences avec.
La Fiat 500.
Avec la Fiat 500.
Bah, là, c'est pareil, une épée c'est un objet noble. Enfin, tu peux pas acquérir une épée comme ça. Donc, au début, tu récupères des.
Parce que ton père est forgeron, donc c'est un peu plus facile.
Oui, mais sauf qu'il est mort, donc tu peux toujours essayer de faire comme
ça. On va spoiler, moi j'ai joué que 20 minutes, il est pas mort mon père encore.
Ah bah oui, mais c'est une histoire de vengeance.
Ouais, c'est que le début du jeu, donc ça va, mais c'est vrai qu'au début, on est en train de se battre avec des armes type gourdin ou hache.
C'est un hommage à Shenmue, on est d'accord.
De quoi?
Non, ouais. La vengeance, le père qui meurt, tout ça.
Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus.
Pardon, excuse-moi, c'est de ma faute.
Que oui, on se battait avec Gourdin, etc. Ouais, il fallait attendre
avant d'avoir une épée. Je conseille aussi d'attendre d'avoir une épée pour vraiment faire des duels vraiment intéressants. Voilà pour la partie combat. Après,
Est-ce que à un moment donné, on participe à des batailles?
Ouais. Alors justement.
Parce que là, je vois
à grande échelle.
En loup solitaire un peu. Ouais. Est-ce qu'on participe à des trucs de grande ampleur?
Des escarmouches. Sans spoiler, au début, le premier combat massif, on va dire, c'est plutôt une escarmouche et c'est du 50 contre 50. Et
c'est
ensuite, t'as une bataille rangée, t'as plusieurs batailles rangées, dont une qui est une prise, enfin un siège en fait, tout simplement, et qui est vraiment jouissif. Là, on voit, tiens, une bataille un peu plus avec un peu plus de personnes.
C'est peut-être pas 50 non plus.
Pas 50 non plus, mais là, ça c'est une des escarmouches qui est vraiment au début. Et c'est pas celle-là dont je parlais. Après, t'as des renforts qui arrivent en fait. Et ça atteint les 50 personnes à peu près.
Mais j'avais fait un truc comme ça. Je sais pas si c'était à l'E3 à la Gamescom.
C'est à la Gamescom.
Une bataille avec pas mal de monde.
Ouais.
Et là, il y avait un côté un petit peu ridicule, entre guillemets, dans
les animations.
Les déplacements, donc les animations des personnages et surtout l'intelligence artificielle avec les archers qui faisaient un peu n'importe quoi, qui venaient à 2 mètres de moi et que je trucidais alors qu'ils essayaient de m'envoyer des flèches.
Honnêtement, ça j'ai. Alors,
t'as pas eu ça?
J'ai pas eu de bug spécifique par rapport à
ça. C'est pas vraiment des bugs, c'est des attitudes un petit peu. Surréaliste quoi.
Effectivement, les combats sont un peu rigides, mais ça c'est
un RPG.
C'est un RPG.
Oui, en même temps, c'est ce que tu demandes à un RPG. Tu demandes pas que ça soit comme ça.
En vrai, les animations elles sont quand même pas mal. Elles ont quand même, y a quand même de la classe quoi. Enfin, c'est. Bon. Après, il faut aussi retourner sur un truc, c'est que c'est un jeu.
Ils bougent avec un balai dans le cul, mais en même temps, ils ont des armures quoi.
Ouais, non, mais en plus, c'est un.
Mais regarde, tu vois, les coups d'épée sont très lents, le bras reste un peu bloqué dans sa position.
Vas-y, prends une épée, une armure et puis. Ouais,
le mec, c'est enfer. Car le paysan, tu sais.
Voilà, le mec qui se déguise en paysan, tu vois bien, par contre.
Non, mais tu vois bien que c'est un peu robotique parfois quoi.
Ouais, mais ça par contre, vous pouvez l'apprendre dans le reportage hein, qu'on a tourné. Ils ont pas eu un budget limité évidemment. Ils ont souhaité faire quelque chose le plus quali possible, mais au bout d'un moment.
Ça reste un jeu indé.
Voilà, ça reste un jeu indé et au bout d'un moment, t'as l'argent, t'as pas une somme infinie.
On revient vite fait sur les combats donc qui sont très réalistes, mais l'arc aussi est très réaliste parce que
l'arc, ouais.
On est dans un jeu vidéo, mais
t'as
en même temps.
Curseur.
T'as pas de curseur.
Ouais.
Et tu fais tout au jugé. Et quand tu veux shooter un lapin. Tu peux y passer 7 flèches pour essayer juste
du
d'avoir.
Du coup, tu progresses et tu te fais à se juger et tu deviens meilleur quoi.
Exactement. Ouais, mais c'est très très compliqué. Ah,
après, c'est pas un peu justement punitif comme gameplay, tu vois. Enfin,
mais c'est vachement jusqu'au boutiste dans l'idée.
Jusqu'au boutiste, je pense que c'est un peu un mot qui caractérise le jeu quoi. C'est sans concession quoi.
Tu vois, parce que la simulation c'est bien jusqu'au moment où ça devient trop dur quoi.
Non, honnêtement, c'est pas à ce point-là. Il y a pas de moment. Pourtant, je suis pas un PGM, tu vois, mais il y a des moments où j'ai effectivement un peu galéré, mais il y a aucun moment où j'ai ragé quoi. Je me suis dit, ah putain, à en balancer la souris ou le clavier, tu vois. Au contraire, c'est plutôt bien pensé. Mais non, pas moment de rage en fait. C'est pas à ce point-là. Bon. Donc effectivement, c'est juste au boutiste, mais pas à ce niveau-là.
De toute façon, quand tu joues à un jeu comme ça, c'est quand même le jeu
mais ça
le plus jusqu'au boutiste qu'on ait vu depuis.
Mais de toute façon, ça
je sais pas, j'ai envie de dire depuis les premiers jeux PC, les jeux Amiga et genre de trucs.
Moi,
tu
depuis JRTM, je connais pas de.
Non, mais attends,
un jeu de rôle papier.
Personne
crayon,
n'a été aussi loin dans le degré de réalisme, quitte à. Si tu veux à sacrifier justement sur l'autel du réalisme
un peu
se priver d'une partie du public, supprimer certaines sensations qu'on a l'habitude de vivre dans les jeux d'aujourd'hui, etc. quoi. Et c'est ça qui est louable, je trouve, c'est le côté un peu poétique du jeu, enfin poétique romantique pardon du jeu. C'est cette rage des développeurs à créer le truc intransigeant qu'ils avaient prévu dès le départ.
Mais surtout cette atmosphère qui est mais vraiment génialissime. C'est-à-dire que
j'allais y venir.
Il y a de la profondeur, mais à 2000%. C'est-à-dire que chaque truc est réfléchi, bien pensé par rapport à l'époque.
Tu penses à quoi, par exemple, le scénario, l'histoire, les personnages et tout ça.
Déjà le scénario est vraiment très intéressant. Les quêtes secondaires sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. C'est-à-dire que souvent.
Attends, façon The Witcher 3.
Façon The Witcher 3, ouais, clairement.
Ah ouais,
clairement.
C'est-à-dire qu'il y a un vrai intérêt.
T'as un vrai intérêt à faire les quêtes secondaires.
Limite, elles se mélangent un petit peu avec celle de l'histoire.
Elles se mélangent carrément avec l'histoire. C'est intéressant scénaristiquement. C'est intéressant pour l'atmosphère, pour ton personnage, pour l'évolution de ton personnage, l'évolution de tes caractéristiques, pour tout un tas de choses. Et évidemment aussi, l'atmosphère passe par la technique. Donc ça tourne sur CryEngine. Mm. La technique et l'artistique aussi, puisque vraiment, c'est fouillé, mais un niveau de, enfin un degré, j'ai jamais vu ça. Ils sont poussés vis, par exemple, quand il y a les lumières volumétriques qui traversent par exemple une fenêtre, à montrer la poussière qui est dans la pièce, en fait. Des exemples tout cons, mais par exemple les effets de lumière des torches, des bougies, etc. Mais c'est juste bluffant, quoi. C'est vraiment des effets de lumière.
On y joue tous les deux en ultra sur PC.
Ouais. Ça va.
C'est vrai que c'est quand même ultra bien foutu. Moi j'ai quand même pas mal de popping des.
Moi j'ai joué sur PS4
des éléments au sol, notamment joli. L'herbe.
Ça, effectivement, c'est un des soucis.
La distance d'affichage est pas toujours optimale. Ouais.
Et ce qui n'est pas optimal, c'est les petits chargements là. À chaque fois qu'on parle à quelqu'un, il faut attendre 3
secondes.
Attends,
chaque chose en son temps. Je finis juste cette partie.
Excuse-moi.
Encore 2 minutes.
Parce qu'il y a aussi la météo qui est impressionnante.
Ouais. Alors, ferme ta gueule.
Là, je me suis fait. Là, il m'a envoyé dans les cordes.
Mais il a bien
aucun
raison.
Respect, quoi.
Non, mais c'est vrai que t'as c'est toi qui parlais de météo.
Ouais.
Mais la météo.
Ah, lui, il peut dire des trucs.
Bah, bien sûr, parce que je dis des choses intéressantes.
Mais il a joué au jeu en plus.
Ouais, voilà.
Et moi aussi, j'ai joué au jeu.
Ouais, t'as joué 20 minutes.
Non, mais c'est vrai que la météo, par exemple, a une incidence. La météo a une incidence sur l'histoire.
Il est mort
en
terre. Non, sur le gameplay.
Et du coup, c'est. Voilà. Et que.
Ah non, mais il y a des choses incroyablement bien faites en termes de réalisation, même si.
Ça ressemble à un triple A vraiment quand vous.
Je trouve quand même.
À part la partie technique, on va
animation,
en venir tout de suite.
Ouais, je trouve que quand même, ouais, c'est assez. Je vais pas dire rigide, mais. Si, c'est un peu rigide, je trouve. Quand tu vas dans un village ou truc comme ça, les gens sont censés vaquer à leurs occupations, mais souvent ils restent un petit peu. On va dire figé, le regard dans le vide, etc.
Comment on appelle ça, Bethesda un peu, comme dans les jeux.
Ouais,
Bethesda.
ça fait un peu Bethesda de ce côté-là. Après, des fois, tu te ramènes dans une ferme, évidemment, t'as tous les animaux qui se baladent, etc. Mais il y a des moments où j'étais un petit peu déçu de ce côté-là. Mais après, pour le reste, le terrain de jeu est immense.
Et d'un côté, bac à sable. Tu vois, tu peux vraiment faire un million de conneries, tu vois.
T'as plein d'approches différentes pour certaines missions. Tu peux
t'arrêter, c'est-à-dire, tu vois, moi je pense, au fur et à mesure, je connais des gens qui font comme tout le monde, tu vois, qui au bout d'un moment lâchent même tout principe de quête, aussi bien primaire que secondaire, et partent pêcher ou partent chasser, et en fait,
tu peux chasser pendant des heures,
ou alors, tu vois, niveau cul par exemple, tu vois, est-ce que tu peux dire, tiens, je vais tout arrêter, je vais essayer de choper de la meuf.
Tu peux te dépuceler, t'as même un.
Oui, parce que t'es un event. Tu commences puceau, on te le dit dès le départ que t'es un puceau.
Et t'as un trophée où c'est. Alors, t'as deux trophées, t'as un trophée si tu arrives à te dépuceler, t'as un trophée si t'arrives à garder ta virginité jusqu'à la fin du jeu.
Pour toutes les personnes qui vont
faire le jeu deux fois, du coup, pour
le nombre de personnes qui vont s'offusquer par rapport aux manières de l'époque, évidemment, où ça met les claques sur les fesses de la serveuse, etc.
Oui, mais c'est... Voilà.
Bon. Ah bah d'ailleurs, il y a une claque du papa sur la maman, sur les fesses de la maman.
Et bah, y a
dans
pas
les 20 premières minutes,
il n'y a pas que celle-là.
Balance ton porc.
Exactement.
Voilà, ça
balance
c'est une
des
choses, par exemple, qui serait typiquement pas passée sur un jeu, on va dire, plus occidental, type Bethesda, par exemple.
Exactement. 18 plus d'ailleurs ce jeu.
Je sais pas du tout.
Il y a des chances parce que vu qu'on voit des charniers, des gens éviscérés, ce genre de conneries.
Aussi,
Alors le viol, j'ai réussi à l'éviter perso.
Ouais, t'es allé aider la fille.
Oh, il est beau le steelbook.
J'ai trouvé le steelbook. Mais tu veux perturber tout à chaque fois toi.
Pardon.
Tu parles en même temps et tout, c'est mal poli. Non mais c'est mal poli.
D'accord, je m'écrase.
Non mais.
C'est bon, j'ai compris.
Ok, merci.
Et du coup, alors pour revenir à ce dont parlait Julio tout à l'heure, effectivement, il y a un problème, le problème majeur en fait du jeu, ce sont les micro-chargements qu'il y a entre
chaque. Pas très micro, Camille.
Ouais,
3 secondes.
Ça dépend
de
ton
ordi,
mais
3-4 secondes.
Sur PS4, c'était 3 secondes.
Pour parler à un PNJ.
Ouais.
Il y a l'autre truc qui
m'agace. Sachant qu'on parle beaucoup quand même dans ce genre de jeu.
Et l'autre truc qui m'agace, c'est tu ramasses un coquelicot. on te fait une cutscene du ramassage du coquelicot à chaque fois.
Ça c'est ouais. chez nous ça.
Non mais attends, mais c'est beau. Tu vois, tout ce qui est beau, tu le détruis.
Non, mais c'est,
vois,
pas c'est incroyable. Beau. C'est inutile.
Mais moi, tu sais, on pourrait rester quand en vue, j'ai envie d'aller ramasser du coquelicot.
Et à la limite, avoir peut-être le perso se pencher, mais là, on sort du perso.
Mais attention, j'ai deux news par rapport à ça.
Ah.
Attention, news. Le coquelicot, il est historique.
Inside Gameblog.
Oui. Qu'est-ce qui se passe-t-il?
Il va y avoir, alors, pour les certains problèmes qui ont été repérés, c'est.
Il va y avoir une mise à jour coquelicot.
L'anti-aliasing qui est pas forcément top, qui est même pas présent d'ailleurs de base dans le jeu, qui va être rajouté. On m'a promis qu'il serait rajouté.
Bah, la 1.02, elle change tout au niveau de l'image déjà.
Et deuxième chose, sur ces fameux chargements, ils ont dit qu'ils en ont pris connaissance et qu'ils allaient vraiment travailler dessus là. Et enfin, troisième news, mais ça qui est évident, c'est qu'ils sont pas prêts de lâcher le jeu, qu'ils veulent vraiment le peaufiner au maximum pour qu'il soit vraiment impeccable. Quoi.
Bon, bah on l'espère.
Ça, c'est sûr et certain que la partie chargement, même si elle est loin d'être optimale, et là je l'avoue totalement, à la sortie du jeu, ne vous inquiétez pas, les développeurs vont vraiment travailler dessus, et ça, en tout cas, on me l'a avoué. On me l'a dit.
On me l'a promis,
voilà.
Et mais moi, ce que j'aime bien, c'est les animations coquelicot, j'ai pas vu. Mais il y a un côté body awareness. Aussi jusqu'au boutiste que j'aime bien, c'est à dire que le body awareness, c'est quand on voit ses jambes, ses bras, etc. Donc évidemment on voit tout, mais également dans les animations, par exemple si tu décides à un moment donné de t'asseoir sur un banc au début dans ta maison et de manger une pomme, et ben c'est pas une cinématique, mais je veux dire le personnage prend le temps de s'asseoir sur le banc et tu vois la caméra qui est à travers les yeux du personnage qui bouge, voilà, comme une tête qui bouge au moment où tu t'assois sur un banc, quoi.
Et pareil quand tu montes à cheval, quand tu vas dormir, quand tu fais tout,
voilà. Donc il y a un côté jusqu'au boutiste aussi à ce niveau là, quoi.
Et c'est pareil pour les blessures, on parlait de dormir, il y a plein de choses qui sont prises en compte. Tu peux même avoir une intoxication alimentaire. Tu peux même, si t'es repu, tu bouffes trop, ton personnage il peut être malade, vraiment. À un moment, j'ai bouffé, je sais plus, 3 ou 4 trucs de poulet ou je sais plus quoi. Mon personnage il s'est réveillé en pleine nuit.
La salmonelle.
Ah, mais le KFC au Moyen-Âge c'était.
Et il s'est réveillé en pleine nuit
Il se réveille en pleine nuit et sa barre de vie est descendue parce que le mec il a fait une sorte d'intoxication alimentaire en fait. Il y a plein de petits éléments comme ça qui sont vraiment sympathiques et qui font que le jeu a vraiment une atmosphère géniale, et c'est sûrement le point sur lequel on ne peut vraiment rien dire parce que ça a été recherché avec amour, on le ressent. Tous les développeurs ont travaillé dessus avec amour et notamment le game director, enfin bref, le directeur du jeu qui vraiment était à fin, qui nous a un peu parlé là-dessus et qui nous a dit tout son amour qu'il avait là-dessus et sur le Moyen-Âge et pour les raisons à laquelle ils ont développé ce jeu.
Il y a une grosse équipe d'ailleurs,
Angèle. Alors ils sont
110,
ouais.
Quand même,
110
monde,
en fin de développement.
110 en fin de développement.
Non, pour un jeu indé,
ils étaient 40 au départ.
C'est énormissime.
Ils étaient 40 au départ.
Ils étaient 40.
Ils ont levé quand même 1 million de livres, c'est ça?
Ouais. Et 1,7 million. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'il
fait 2 millions d'euros, ça.
Ouais. Ce qui est marrant, c'est que le game directeur du jeu, il est dans le jeu, en fait. C'est celui qui joue le seigneur, le barbu qu'on voit au début du jeu. Enfin, c'est assez marrant, ils se sont représentés. On sent vraiment qu'ils ont pris un gros kiff à se mettre en scène dans le jeu. C'est vraiment sympa, quoi.
Bon.
Voilà. Alors, ce qu'on pouvait dire.
Est-ce que, si on pour reprendre le trailer français, est-ce que le jeu est dans la merde jusqu'au cou ou pas?
Non. Le jeu n'est loin d'être dans la merde jusqu'au cou. Au contraire. Le jeu est offre.
Oh bah voilà, c'était un 18.
Voilà, 18 on a la réponse. Ouais. Offre de très bonnes sensations et honnêtement, je vous le dis, le gros problème, ça reste cette technique au niveau des chargements, mais c'est peut-être aussi les combats côté console. Ça, enfin, je me pense un peu plus sur le sujet.
Tu vois, ce qui est marrant quand même, c'est que alors, toi, autant, je veux dire, à l'avance, on sait Camille que t'es client. Alors qu'un mec comme moi. Et peut-être même dans une moindre mesure Plumeau, qui a plein de critiques à formuler, il a quand même enchaîné 10 heures il est pris dans l'atmosphère et dans l'envie d'en découvrir plus sur ce jeu qui est quand même totalement différent de tout ce qui existe,
qui revient plus à un esprit années 90 au niveau RPG.
Carrément, Angèle, tu parlais des batailles, là il y en avait une à l'écran.
Justement, je suis en train de regarder.
Et donc, moi qui suis pas forcément dans ce délire là, j'ai trop envie d'y jouer, quoi. Et là, ce que tu es en train de me dire en plus me donne encore
plus
envie.
C'est vrai qu'une fois que tu es rentré dans le jeu, même s'il y a des choses qui peuvent te chagriner, tu es tellement pris dans l'histoire, tellement pris dans l'atmosphère que du coup tu as envie de continuer jusqu'au bout, quoi.
Non, du coup, t'as pas encore assez avancé pour livrer ton test,
non.
Mais tu partirais sur une note.
Là, honnêtement, au point où j'en suis, je pense que ça serait un petit 8.
Un petit 8 ?
Non, un petit 8.
Un gros 8.
Un 8 classique, quoi, avec un indispensable. Puisque indispensable parce que c'est indispensable, quoi. C'est quand même le RPG bah, que beaucoup de gens ont attendu et surtout qui fait des choses que aucun autre n'a osé faire auparavant. Et ça, c'est plutôt...
Bon, et donc, on vous promet, à vous, les lecteurs, parce que l'embargo est levé le 13. Ouais. On a eu le jeu le 8 ou le 9. C'est pas assez pour vous faire un test comme il se doit.
Ça serait malhonnête de vous rendre un test voilà. Sur un jeu si
donc
gros.
Donc tu vas finir la campagne principale et voilà, puis livrer ton test probablement soit à la fin de la semaine, soit en début de semaine prochaine.
Je sais pas quand va être publié le podcast, mais en tout cas.
Il sera publié demain.
Mardi pour les premiums.
Ça sera sûrement le lendemain, au maximum le lendemain du podcast.
Fais
gaffe là, fais gaffe.
Optimiste. Non, là t'es vraiment trop optimiste.
Bon, en tout cas, on va s'assurer que t'es. On va pas te speeder, mais
exactement.
Voilà. Au moins, on a déjà un avis grâce au podcast très éclairé.
Voilà, vous savez.
Je pense qu'il y a des gens déjà qui vont décider de pas attendre le test.
Oui, je pense que par exemple, Matt Klein, que je resalue.
Qui nous a remercié de l'avoir cité.
Bah c'est normal. En même temps, c'est le premier à m'avoir saoulé avec ce jeu en 2015.
Gamescom 2015.
Ouais, et je crois qu'il avait raison.
Mais sinon, le jeu s'est déjà vendu en fait. Le jeu est déjà très bien vendu, il est top, il est passé top 2 sur Steam des ventes avant-hier, il me semble, un truc comme ça. Donc là,
alors qu'il est techniquement en précommande là.
Il est techniquement en précommande, ouais. Donc ils ont déjà un public acquis quoi. Voilà, voilà.
Et très bien, donc Kingdom Come Deliverance qui sort sur PS4, PC et Xbox One ce mardi 13 février.
Et allez voir vraiment le tour de studio de Camille, ça vaut le coup.
Exactement, allez-y.
Rien que pour rencontrer Tobias, le PR manager,
qui a l'air très sympa, ouais. Un roux, encore une fois. Les roux qui ont un traitement assez spécial d'ailleurs dans le jeu.
Ouais,
voilà.
Ouais,
Moyen-Âge oblige, hein, les roux. C'est ce qu'on en faisait à l'époque.
Il y a un rouquin dans le jeu.
On en faisait quoi? Il cramait.
Ils étaient mis à l'écart.
Ils étaient mis au banc de la société.
Comme les juifs.
On les mettait en trop haut, quoi. Hein, Poufi.
Bon. Eh ben merci Camille pour ces impressions avancées sur Kingdom
merci
Come. On
vous.
Va passer au deuxième thème de la semaine. C'est The Red String Club et Crossing Souls. On va parler d'abord de Red String Club, mon cher Angèle.
Comme tu veux.
De quoi que ça parle? Qu'est-ce que c'est? À part que tout ce que je sais, c'est qu'il est sorti le 22 janvier sur PC.
Ouais.
Mais après.
Alors de quoi ça parle? Ça parle d'un mec qui tient un bistrot. Et
on comprend mieux pourquoi ça t'a plu.
Ah bah
oui,
voilà.
Déjà le point de départ. Et donc c'est un mec qui tient un bistrot et qui sert des cocktails à ses clients et qui a la curieuse capacité de pouvoir jouer avec la personnalité des gens et leurs sentiments selon le cocktail qu'il leur sert. Tu vois, et donc à partir de là, tu fais parler tes clients.
Putain, ça fait rêver ça.
Donc voilà, par exemple, tu vois, tu choisis
les ingrédients.
Et puis surtout, tu choisis dans quelle ambiance tu veux le mettre. Elle, par exemple, tu vois, justement, il y a un lecteur qui a remarqué le screenshot. Elle, tu la mets dans une ambiance un peu chaudasse. Et au bout d'un moment, elle te dit bon, soit tu me poses une question maintenant, soit on va derrière et on va baiser tout de suite. Et donc là je résume ça, c'est une partie intéressante du gameplay, mais surtout ce qui est important c'est que tu te retrouves pris dans une conspiration planétaire. C'est une ambiance comme vous pouvez le voir ici très probablement c'est du pixel art, mais c'est surtout une ambiance ultra cyberpunk. C'est vraiment
ça fait penser à Blade Runner.
Ouais, on est dans la base de tout ce qui est cyberpunk avec tout ce qui va avec, à savoir une société qui est un peu rongée par le transhumanisme. Tu vois, bah justement, la narration cyberpunk. Et donc, beaucoup de transhumanisme. Et tout est géré par une grande société qui veut plus ou moins dominer la planète. Alors après, justement, l'intérêt du jeu, c'est une aventure purement textuelle. Hein. Vous attendez pas à des dialogues.
Et parce que le gameplay, c'est quoi finalement? Tu joues ce mec derrière le bar, tu fais tes cocktails.
Tu joues plusieurs personnages. Tu
obtiens des informations des gens que t'interroges, entre guillemets.
Ouais, alors
ça fait avancer le scénario comme ça.
Ouais, alors en fait, le jeu commence, y a quelqu'un qui rêve dans ton bistrot. Et tu te rends compte que. Enfin, tu vois, et tu es pris plus ou moins. Tu prends conscience de la conspiration. Le client qui arrive, en l'occurrence, c'est un robot. C'est un robot dont le boulot est de construire des modules qui vont améliorer ta perception de la société. À savoir, tu vois, ça peut te donner du courage. Ça peut faire en sorte que tu t'en foutes de ce qui se dit de toi dans les réseaux sociaux, ce qui pourrait servir d'ailleurs à beaucoup de personnes dans la vie, etc., etc. Tu vois, pour gagner de la confiance en soi. Et donc, c'est des modules, tu vois, de l'implantation. Là, on est vraiment dans le transhumanisme. Et donc, ils se rendent compte que la société qui fabrique tout ça veut un peu hacker tout le bordel pour soumettre l'intégralité de la planète. C'est-à-dire pas seulement les gens qui payent pour ces modules-là, mais tous les autres. Et à partir de là, Donc toi, en tant que serveur de ce bistrot-là, tu dois poser des questions à tes clients qui sont aussi des employés de la société pour avoir plus d'informations sur vraiment qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'ils vont le faire,
etc. L'objectif ultime, c'est de déjouer les plans de la société en question.
L'objectif ultime, il est pas si évident que ça, parce que justement, un des intérêts du jeu, c'est dans la narration, c'est que en fait, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir.
C'est pas manichéen du tout.
C'est pas du tout manichéen. C'est-à-dire que là, par exemple, quand je parle de la conspiration de la société qui veut manipuler les gens, en fait, même ça, finalement, ça paraît pas si clair que ça. Parce que est-ce que finalement, la société, elle agit pas pour le bien du monde ? Parce que finalement, l'idée qui est développée derrière par cette société, quand ils pensent, c'est pas tentante, quoi. C'est pas si déconnant que ça. C'est-à-dire, d'un point de vue philosophique, il y a une réflexion derrière. Et vraiment, enfin, c'est un truc qui est assez difficile à décrire, mais il faut y jouer. Pour le coup, il faut y jouer.
T'as mis 8, hein, c'est ça ?
Ouais, j'ai mis 8. C'est un très bon 8 parce que c'est un jeu qui fait réfléchir. Et franchement, il y en a pas beaucoup. C'est une aventure qui est assez courte, hein. Moi, je crois que je l'ai fini en 3 heures à peu près. Mm-hmm. Tu vois, donc vraiment, c'est le genre de jeu. On lance une journée et on veut passer un bon moment, comme on regarde un bon film. Et c'est entrecoupé. Il y a 3 séquences de gameplay principales. Il y a celle qu'on voit actuellement à l'écran, où donc on va
explorer comme dans un point and click.
Non, même pas. Il y a aucune exploration. Hein. C'est vraiment, c'est que du textuel.
Ok.
Là ici, en fait, on va construire les fameux modules mm-hmm. qui servent. Voilà. C'est sur la base de poterie.
Ok.
C'est là sur la base d'une poterie, comme dans Ghost.
Ah oui. Ouais, je me rappelle. Ouais. En poterie, on pense toujours à Ghost.
Ouais, ouais. C'est Ghost, mais ouais. Bon, sans la meuf.
Ok.
Et où tu dois construire tes fameux modules. Uh-huh. C'est gentil, franchement. Voilà, c'est du gameplay qui paye pas de mine. Ensuite, t'as un deuxième gameplay qui consiste à servir des cocktails en les
comme construisant toi-même. Cocktail.
Exactement.
Voilà.
Et en fait, et sur la fin, t'en as un troisième que, franchement, pour le coup, celui-là, je l'ai trouvé vraiment très sympa. C'est cette simule une sorte de social hacking. Qui consiste en gros à appeler au moyen d'un téléphone filaire. En plus, ils insistent bien sur le côté ancestral du téléphone filaire. C'est qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah bah, c'est un téléphone qui est relié. On sait pas pourquoi, mais bon, bref. Et donc, t'appelles les employés de la différence de la fameuse société pour essayer de récupérer des accès et des trucs comme ça en feintant de la même manière. Enfin, tu vois, comme dans un social hacking classique.
D'accord.
Et vraiment, enfin, on joue pas tant à ce jeu-là pour le gameplay. On y joue plutôt pour l'histoire que ça raconte. Et dans, okay. et dans l'histoire, c'est vraiment impressionnant. C'est développé par Deconstruct Team. Mm-hmm. Et c'est pas leur coup d'essai à ce niveau-là, parce qu'ils avaient déjà fait God Will Watch It.
Oh, c'est ces salopards là.
Ouais, ouais, c'est God Will Watch Us, qui était déjà un des jeux les plus difficiles de toute l'histoire de l'humanité.
Ah, ben c'est le pire point and click que j'ai fait de ma vie en termes de difficulté, et en même temps un des plus intéressants.
Voilà, qui mettait déjà, tu vois, qui mettait déjà une pointe de réflexion à savoir sur les sacrifices que tu dois faire pour sauver la planète, pour sauver les gens et compagnie. C'est-à-dire, et donc c'est vraiment dans cette veine-là, quoi.
Et t'as des embranchements ou des choix qui font varier l'histoire? Ou c'est une espèce de truc quand même linéaire?
Non, c'est vraiment très linéaire. Et justement, alors moi c'est la réflexion que je me suis faite moi-même, hein. C'est il y a une certaine réflexion sur le côté aussi sur le destin, en fait, sur finalement sur le côté quoi que tu fasses, finalement les conséquences de tes gestes seront tous tes gestes auront finalement la même conséquence. D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant, en fait, Wrestling Club. Pourquoi ça s'appelle Wrestling Club? En haut à gauche de l'écran, là on le voit pas, mais dans le bistrot, on voit, il y a un truc sur lequel on peut cliquer qui te déroule en fait toute ta timeline et les choix que tu as fait en termes de questions, de réponses, etc., mm-hmm. etc. Et d'entrée de jeu, je le dis, donc évitez de le faire si jamais vous voulez pas vous spoiler le truc, mais d'entrée de jeu, en fait, cette timeline,
tu dis où ça va,
tu peux aller tout au bout et tu vois déjà la fin du jeu.
Ah ouais,
tu sais déjà, tu vois déjà là derrière.
Tu l'as fait, toi, quoi?
Alors moi, je l'ai fait sans faire exprès, parce que je voulais savoir si c'était très très long, enfin si l'aventure était longue, parce que comme c'est pour le test, je voulais savoir à quoi m'attendre, et j'ai vu le truc qui était tout au bout. Donc au début, j'ai cru que c'était un bug, parce que c'était vraiment quasiment au tout début de l'aventure. Sur la fin, j'ai plutôt compris que ça devait être, à mon avis, une volonté du développeur qu'un bug. En tout cas, je veux y croire, tu vois. Enfin, je veux croire que c'est ça.
Très bien. Donc
encore une bonne pioche de Devolver.
J'allais le dire, c'est un jeu Devolver parmi les deux dont tu vas nous parler qui réussit encore une fois son coup. Le deuxième jeu Devolver dont on va parler justement maintenant, c'est Crossing Souls.
Ouais.
On change complètement d'ambiance. Là, on est plutôt du côté des Goonies.
Ouais.
Mais plutôt années 80 et
ce qui est marrant, c'est que les deux se connaissent d'ailleurs. Les deux développeurs se connaissent.
Oui, puisqu'ils sont espagnols.
Et c'est Deconstruct Team qui, je crois, a pistonné Foratic ouais.
Pour rentrer chez Devolver.
Ouais, ouais. Ouais, il y a un truc comme ça, les deux se connaissent, et d'ailleurs il y a une grosse, bon enfin on va le dire, il y a une grosse référence à God Will Watch Us
dans Crossing Souls. Ah ouais.
Ouais.
Eh ben écoute, tu vas nous en parler un petit peu.
Alors, Crossing Souls. Là c'est vraiment deux salles, deux ambiances hein. C'est-à-dire c'est ouais.
C'est du pixel encore, mais c'est ambiance totalement
différente. Mais ouais, c'est là où, enfin là où t'as dit au début du podcast que c'était du pixel art. Ouais. Là pour le coup ça l'est pas vraiment. C'est plus du pixel comme on en avait avant dans les trucs. C'est du pixel
nostalgique.
C'est du pixel un peu dégueulasse. Tu vois, c'est de la bouillie de pixel.
J'aime ça quand c'est dégueulasse.
C'est les étapes d'animation. Enfin c'est les animations en trois étapes.
Moi j'aime quand c'est ça.
Et voilà, c'est-à-dire on le voit. Enfin on peut pas dire que ce soit du pixel art.
Si. Oh. Ah bah dès que c'est pixelisé, on appelle ça du pixel art. C'est pas moi qui ai choisi hein.
Ouais. Donc, bah écoute voilà.
Pixel art forcément dès qu'il y a du pixel.
Ça c'est du pixel art vieux.
Bah écoute, moi je le dirais pas comme ça.
À fond.
Moi je le dirais pas comme ça.
Bah alors, qu'est-ce que tu veux que je dise? Bah,
ça veut dire que tous les jeux dans les années 80, enfin avant la 3D, étaient faits en pixel art.
Bah oui, bon. Exactement.
Soit. Mais donc en gros, Crossing Souls, c'est complètement différent de l'autre jeu. Là c'est vraiment... Là, pour le coup, c'est un vrai jeu avec vraiment du gameplay qui est basé sur une expérience nostalgique des années 80. Mm-hmm. Mais vraiment.
C'est le jeu Madeleine de Proust pour tous ceux qui ont 30 ou 40 ans aujourd'hui, quoi.
Ouais, clairement. Et donc, ça c'est basé sur tous les films de l'époque, tous les jeux de l'époque, toutes les BD de l'époque. Tu vas jouer, c'est un jeu melting pot. Qui à la base c'est vraiment très action-aventure, mais on va retrouver tous les gameplays, on va retrouver des pointes de shoot 'em up, on va retrouver du beat 'em all avec des références.
De l'aventure, de l'exploration.
Il y a clairement une partie Zelda, c'est ce que je mets dans mon test. C'est-à-dire que vraiment, quand tu te retrouves à éclater des buissons pour récupérer des cœurs de vie,
l'hommage n'est pas loin.
La référence est plus qu'évidente.
Oula, j'ai cru voir un truc qui m'a fait penser à l'histoire sans fin.
Je trouve que la base, quand même, c'est les Goonies. Parce que c'est la bande de potes. Et d'ailleurs, l'intro du jeu, c'est les potes qui se réunissent. Suite à une découverte machin, et c'est un peu la bande qui se réunit.
La base du jeu, effectivement, le scénario il est construit comme ça. La base du jeu, c'est un jeu comme tous les films de l'époque, comme tous les films de cop.
Et les séries aussi. Hein.
C'est-à-dire les Goonies, mais aussi Stand By Me
ouais,
et d'une certaine manière E.T. E.T. finalement, c'était aussi une histoire
E.T. Ah d'accord, E.T. E.T. d'accord.
Ouais, je dis E.T. ouais.
Ok,
ouais,
d'accord.
E.T. pourquoi pas. C'est vrai, t'as raison.
Mais il y a aussi Les Petits Génies par exemple, qui était une série qui passait sur Antenne 2 quand j'étais petit. Pareil, c'était une bande de potes.
Ouais, c'est ça.
Qui résolvait des affaires.
Et tu retrouves, enfin, qui...
Comme dans les Goonies, ils découvrent un cadavre, on l'a vu juste avant.
Qui pour le coup, tiens, on l'a pas vu, mais justement, il y avait une bande d'arcade qui était. C'était GWWU et c'est God Will Watch Us.
Ah.
Là, j'ai vu une scène, c'était effectivement. Comme E.T. quoi, avec dans la maison, avec l'espèce de tuyau qui sortent.
Oui, voilà. Exact. Ouais.
Et donc le scénario est construit vraiment sur le principe du film des années 80 à la Goonies, à savoir donc la banque de potes, et il y a tous les clichés, à savoir il y a le leader qui est vraiment courageux et qui lui sait grimper, le jeune Black qui lui est fort et qui va déplacer des objets.
Il est habillé comme Antoine Griezmann d'ailleurs, il est basketteur j'imagine donc.
Oui, ils le disent pas, mais bon, sûrement. Et donc il y a la fille, il y a la fille qui est copine de tout le monde, il y a le geek, etc. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc il se balade en vélo, tu vois, lui il tape tout le monde avec la
batte. Il y a donc des séquences animées comme les dessins animés américains des années 80.
Ouais. Et donc il y a quelques cutscenes, il y en a pas non plus des masses, hein, mais il y a quelques cutscenes qui sont animées.
C'est pas ce que j'aime le plus pour te dire la vérité dans les séquences animées.
Mais finalement ça colle bien, quoi, parce que c'est vraiment toi parce que t'es plus des animés japonais. Mais
oui, mais enfin moi je suis hyper sensible à l'ambiance Goonies, etc.
Moi c'est DeLorean aussi.
Ça vous voyez, voilà. Donc moi ça m'a beaucoup fait penser, par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, Donjons et Dragons, le dessin animé.
Oui, tout à fait.
Dans le graphisme, les cutscenes sont vraiment faites dans cet esprit-là. Et donc bof, c'est Retour vers le futur, et donc c'est construit sur la base de ce type de scénario là.
Mais c'était Viggo des Carpates qu'on vient de voir aussi là sur le tableau.
Tout à fait.
Putain, mais
et donc il va y avoir une aventure.
Oui, t'as des posters Dragon Ball et tout aussi, je crois que
j'ai pas bêtise. J'ai pas vu Dragon Ball, mais il y en a peut-être, je l'ai pas vu. Mais
il y a SOS Fantôme.
Ouais, t'as SOS Fantôme, t'as Terminator, t'as Gremlins, t'as.
Est-ce que ça dégueule pas trop de ce côté là des références? Est-ce que c'est pas un peu too much?
Non, moi en tout cas, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Il n'y avait pas de trop. C'était toujours plutôt bien amené.
C'est uniquement l'aspect référentiel, parce que ça nous fait kiffer, nous, mais je veux dire, derrière, il y a quand même un jeu,
non, mais
des mécaniques et tout.
Alors, justement, donc, il y a énormément de références au niveau des décors et au niveau des dialogues aussi. Mais sinon, c'est ultra référentiel dans le gameplay. C'est-à-dire, c'est vraiment un melting pot de tous les gameplays à l'ancienne, de tous les jeux qu'on a fait. C'est-à-dire, ça se joue, tu vois, c'est un jeu d'aventure, c'est un jeu de plateforme un peu, qui jouait comme les jeux de plateforme de l'époque, y compris avec la maniabilité un peu dégueulasse, j'aurais envie de dire, qui moi pour tout dire m'a un peu gêné, mais ça on en parlera après.
Parce que je pense pas que ça fait exprès, les mecs ils veulent pas faire un gameplay dégueulasse.
Ouais, non, là par contre ils sont un peu, bref, ça vient un peu gâcher le truc, mais on en parlera après. Mais sinon, enfin, il y a vraiment un melting pot de tous les gameplays qui se faisaient à l'époque. Moi pour tout vous dire, ça m'a fait penser un peu, moi quand j'étais plus gamin, j'ai passé beaucoup de temps dans les bornes d'arcade à Madrid. Tu vois, et franchement je passais un super moment. C'était quand je ressortais, j'avais un moment de plénitude, parce qu'en l'espace de 2 heures de temps, j'avais joué un shoot 'em up, j'avais joué un jeu de baston, j'avais joué à plein de styles de jeux différents, et franchement je m'étais pris la dose, et je ressortais, j'étais heureux. Et en fait, bizarrement, ce jeu là m'a donné à peu près cette sensation là c'est à dire qu'on arrête de jouer, on est revenu en arrière, on a joué à plein de styles de jeux différents, plutôt bien fait. C'est-à-dire, il y a des boss qui sont plutôt bien amenés la plupart du temps. Il y a des énigmes qui sont très simplistes. Il n'y a pas une seule idée originale, par contre, dans le jeu. Il n'y en a pas une seule. C'est que des trucs qu'on aura forcément vu dans tel ou tel jeu. Tu vois, ça, faut le savoir.
Mais le mélange fonctionne bien. Mais la mayonnaise prend, quoi.
Mais cette espèce de melting pot fait que ça marche bien. C'est comme, je sais pas moi, tu vois. Enfin, c'est comme un album de reprise qui serait très bien foutu. Ou alors comme Stranger Things. Si les gens finalement ont adoré Stranger Things, c'est actuel, mais ça reprend tous les codes de l'époque, et on s'y retrouve. Il y a ce côté Madeleine de Proust, qui fait qu'en même temps c'est plutôt bien fait, donc on s'y retrouve. Ben, c'est pareil au niveau du jeu vidéo, au niveau de ce jeu, c'est plutôt bien fait, parce que le gameplay qui est proposé est fidèle à celui de l'époque.
Dans ton test, tu disais c'est un feel good game.
Ouais, c'est un feel good. C'est parce que de la même manière qu'il y a des feel good movies où on les voit, où on pose son cerveau, et à la fin
on a juste passé un moment cool.
On a passé un super moment. C'est pareil pour ce jeu vidéo. Moi je sais que je l'ai fait en 3-4 soirs, parce que j'ai vraiment pris mon temps. À chaque fois que je coupais, vraiment, j'avais passé un très très bon moment, et je me sentais mieux. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre, je pense. Il n'y a pas de prétention, il n'y a pas la prétention justement de Red String Club qui veut faire réfléchir, non. Là, Crossing Souls, ça ne fait pas réfléchir, ça veut juste faire passer un bon moment. Comme les films de l'époque, comme The Goonies voulait juste faire passer un bon moment. C'est-à-dire, tu vois, ça ne se faisait pas chier à écrire des dialogues super chiadés ou un truc comme ça. Ça voulait juste faire passer un bon moment. Même le scénario, à la limite, très franchement, d'ailleurs, ça c'est une critique. Hein, sur la fin, le scénario déjà il est léger, mais sur la fin ça devient vraiment juste un prétexte pour enchaîner une scène après une autre, et il se perd un peu en conjoncture, mais bon.
Ok.
Mais sinon, à part ça, tout va bien.
Et il a l'avantage de sortir sur PC, bon, et donc Mac, parce que toi tu l'as testé sur Mac.
Ouais. Et PS4.
Et donc il sort sur PS4 aussi. Il y a une démo jouable.
Oui, c'est vrai, depuis une semaine il y a une démo.
Exactement. Ouais. Donc à la limite.
Le premier chapitre.
Je pense qu'Angèle vous a donné envie d'essayer la démo, quoi.
C'est tout le premier chapitre. À savoir que donc si le début est très très bien, la fin est plutôt décevante. Mais comme je disais dans le test, faut pas que ça vienne gâcher
toutes les bonnes choses
qu'on a vraiment sur les bons trois quarts de jeu. Et d'accord. Encore ça, c'est moi qui l'ai déçu, parce que c'est notamment à cause de la maniabilité, mais pareil, hein, finalement ça m'a ramené aussi dans les années 80-90, quand on devenait fou à cause d'une maniabilité un peu pourrie,
mal foutu à un moment donné,
ouais, je pense clairement à une séquence de jeu que j'ai dû recommencer à peu près une centaine de fois, juste parce qu'il y avait des putains de sauts qui passaient pas, ou alors une escalade tu vois qui prenait pas. Ça je l'ai passé une bonne centaine de fois. Tu vois, comme tu disais, là par contre j'ai vraiment failli jeter mon paddle contre le mur, ce qui m'arrive très rarement. D'ailleurs, autre chose à dire, donc ça sort sur PC et sur Mac. Les développeurs recommandent d'y jouer au paddle. Je le recommande aussi très chaudement.
Très bien.
Je pense pas qu'on puisse vraiment aller bien loin avec la manette et
avec le clavier.
Ouais. À mon avis, ce serait plus que galère.
De toute façon, il n'y a pas de souris, d'ailleurs, ça doit être uniquement clavier en fait.
Non, il y a aussi la souris. Je sais pas d'ailleurs comment il le gère, mais bon. Parce que moi, je suis passé directement au paddle. Mais voilà. En tout cas, jouez-y.
Donc coup double pour Devolver cette semaine.
Oui, qui en plus a la particularité d'avoir une très bonne durée de vie pour le prix. Voilà. Moi, j'ai mis 15 heures. Vous retirez ça une ou deux heures de crise de nerfs, et vous avez à peu près la durée de vie du jeu.
Ok, très bien. Bah, c'est noté. Donc Red Strings Club et Crossing Souls, vous pouvez déjà vous jeter dessus.
C'est validé.
C'est du Devolver, c'est du bon Devolver.
Angèle.
Et c'est validé par Angèle en plus, donc c'est encore mieux. On va passer au troisième et dernier thème de la semaine. messieurs, dames, Sea of Thieves, Jules, on vous a donné envie il y a deux semaines. Aujourd'hui, c'est Camille. Parce que
j'en ai parlé avec amour quand.
Oh oui. Ouais. Oh là là, c'est même plus que de l'amour. Je crois que c'était de la passion carrément.
Ouais.
Et ben là, pour le coup, Camille, tu es allé chez
Camille
Rare,
qui est venue avec des images inédites du jeu que vous êtes en train de voir. Si vous êtes prêts.
Tu as réalisé le rêve de pas mal de monde. Tu es allé chez Rare, c'est quand même un studio mythique qui travaille
un peu
donc. Qui travaille sur Sea of Thieves. Donc tu es allé à la ferme. Hein. Il y a une petite ferme. Il y a des.
Ah, on va faire commencer comme ça.
Quelle ferme?
Hein, à la ferme ta gueule, toi. Tu vois pas que tu nous emmerdes.
Hey. Ouais.
Donc,
c'est à Camille que je.
Non mais justement, je voudrais dire à Camille parce qu'il me l'a raconté un peu comme ça avant qu'on parle du jeu. Vite fait, parce que c'est quand même chez Rare, quoi. Ouais. Raconte-nous, c'est comment leur.
Bah, c'est,
c'est pas à Londres. Hein.
Ouais, déjà, c'est pas à Londres, c'est près
à
de
la campagne.
Birmingham. À la campagne, et du coup t'as un aspect un peu Disneyland, quoi. C'est-à-dire que tu rentres dans un espèce de parc fermé un peu à l'américaine. Mmh. Ils ont un lac personnel avec un chemin boisé, etc., pour se promener, et puis ils ont des mascottes de leurs différents jeux.
Ouais, des statues, quoi.
Voilà, des carrément des grosses statues à la Disney ou à la Parc Astérix, quoi. Des grosses statues quand tu rentres
avec Banjo-Kazooie,
Joker, etc.
Exactement. Mmh. Et du coup t'as vraiment l'impression de rentrer chez Disney, et puis après t'as trois gros bâtiments un peu boisé, vraiment un esprit à la cool, quoi. C'est vraiment une ambiance chaleureuse, quoi.
C'est vrai, ça se ressent au niveau des personnes que t'as pu côtoyer là-bas.
Exactement, ouais. Chez les développeurs, ça se ressent, et puis dans le jeu aussi, évidemment, ce côté un peu chaleureux, on le ressent dès les premières minutes.
Très bien.
Julo pourra en témoigner.
Tout à fait.
Mais du coup,
c'est fait.
Il ressent la chaleur
dans tous les sens.
Donc je vais pouvoir répondre à la plupart de vos questions.
Alors en gros,
sauf une qu'on verra plus tard, je ne peux toujours pas y répondre, et d'ailleurs. Je pense même pas pouvoir y répondre quand le test sortira, malheureusement. Enfin, on verra ça un peu plus tard.
Bon. Ah oui, la question du long terme, etc.
Ouais,
tu
voilà.
veux dire. Mais il y a quand même des débuts de réponse à cette question-là. Mais en gros, alors je sais pas. Parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui ont joué à la bêta.
Ouais.
Nous, c'est notre cas. Il y en a qui ont pas vu du tout, mais à ce moment-là, il y a le podcast de la semaine. Non, c'était la semaine dernière.
C'était il y a deux semaines.
Il y a deux semaines. Regardez le podcast il y a deux semaines pour savoir un peu ce qu'on a pensé de la bêta et ce qu'il y avait dedans. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que toi, Camille, t'as pu aller donc chez Rare, et chez Rare, ils t'ont fait jouer à la version quasi définitive du jeu.
Ouais, c'est la version.
Et donc,
exactement.
Tu as les réponses à pas mal de questions qu'on se pose.
Ouais.
Et d'ailleurs, on pourrait peut-être procéder comme ça, non?
Ça va être que les questions en fait.
Voilà.
Et donc, c'est Julo qui va les poser parce que Julo est plus intéressé que moi.
Juste avant les questions, c'est vrai que j'aimerais revenir sur juste un petit truc. C'est que Sea of Thieves, quand c'était annoncé à l'E3 2014, je ne sais plus,
vrai
qu'on a eu beaucoup de mal, moi le premier, à s'imaginer ce que ça pouvait donner. C'est-à-dire ils ont été très 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 nébuleux là-dessus, on savait pas vraiment ce que ça allait donner, on savait même pas quel était l'objectif, on savait pas ce qu'on pourrait faire. En gros, on ne savait strictement rien sur le jeu. Et
on savait que c'était open world,
que c'était pirate,
que tu jouais des pirates en multijoueur.
Mais il n'y avait pas d'infos, enfin, on savait pas si c'était un MMORPG, on savait pas si c'était juste un jeu monde ouvert, etc. Et maintenant, on a des.
Bon, on le sait, en gros,
on le sait un peu
pour le dire très très vite, c'est un jeu multijoueur, bac à sable, tu es dans un monde ouvert qui est en fait un grand océan avec plein d'îles.
Un monde imaginaire pirate, mais qui n'a aucune prétention à être réaliste. Un monde imaginaire pirate comme pourrait s'imaginer un enfant, c'est-à-dire qu'on a le perroquet sur l'épaule, on a la jambe de bois.
Voilà.
C'est mon cas, Island.
Voilà,
c'est alors, et justement, c'est alors, c'est ça qui est intéressant, c'est Trask qui avait trouvé cette comparaison, et c'est vraiment exactement ça en termes de design, d'ambiance, etc. C'est un mélange entre Zelda The Wind Waker et Monkey Island.
Ouais.
C'est-à-dire Monkey Island qui était déjà inspiré par Pirates des Caraïbes.
Bien sûr.
L'attraction.
L'attraction Disney,
bien sûr.
Absolument,
mais l'idée, c'est que t'as un design un peu cartoonesque, comme dans les Monkey Island, des personnages un peu comme ça. Et puis t'as le côté navigation, parce que tout est basé sur la navigation. Ce qui est génial, c'est que c'est qu'on rentre pas dans un bateau et puis on le dirige comme ça. Non.
Ouais.
Il faut être quatre sur le bateau. Il faut qu'on se mette à plusieurs pour relever l'ancre. Il faut que pendant qu'il y en ait un qui pilote, les autres s'occupent des voiles. Il faut jeter l'ancre au bon endroit. Si tu perces ta coque, il faut la réparer vite fait avant que le bateau coule. Quand tu gères les canons, il faut que tu ailles chercher dans la cale d'autres boulets pour recharger ton canon. Et à côté de ça, t'as des trucs complètement fun, genre tu peux te foutre dans le canon et t'envoyer à la place de la boule directement sur une île. Et en gros, ce qui est génial, c'est le côté coopératif. Chaque personne sur le bateau a un rôle. Et si chacun ne prend pas son rôle, et tu joues mal, tu casses ton bateau, tu te fais piller par les autres, tu trouves pas tes trésors, etc. Et le but du jeu, c'est, comme on l'a vu dans la bêta, aller chercher une carte trésor. Une fois qu'on a trouvé la bonne île, trouver l'endroit où creuser. Entre temps, tu te fais tomber dessus par des squelettes, etc. Donc tu les tues. Et puis tu finis par trouver ton coffre. Tu rembarques le coffre dans le bateau. Tu repars sur une île avant-poste. Et là, tu revends ton coffre. Ouais. Voilà. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que, comme on se l'est dit quand on jouait à la bêta, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça va être absolument trop répétitif et qu'on va se. On va se lasser de ce jeu parce que toutes les quêtes sont toutes les mêmes.
Alors ça c'est...
Ouais, tu voulais dire, j'allais dire un truc. Je pense que si on se réfère à ce que vous avez vécu dans la bêta, c'est pas un jeu qui doit se jouer sur une longueur de plusieurs heures.
C'est ce que j'explique dans ma preview d'ailleurs.
Ouais, je pense que c'est plutôt un jeu que tu picores.
Ouais,
exactement. Par session,
c'est par exactement petite session.
Ouais. Pas petite, mais de par session.
Et je pense que c'est pareil, toutes les vidéos Twitch qu'on a vues vont dans ce sens pour avoir une histoire à chaque fois que tu y joues. Une histoire.
Ils l'ont dit, c'est un jeu qui veut. L'objectif principal, ouais, c'est de rendre le jeu aussi fun à jouer qu'à regarder.
Exactement.
C'est clair, et c'est leur phrase d'accroche.
Ça se sent à fond.
Et j'ai envie de dire, ils auraient presque pu faire une autre accroche, c'est les histoires, c'est pas les jeux qui te les livrent. C'est toi qui les crées, ouais, en jouant avec tes amis.
Mais en fait, c'est du Playmobil.
C'est du Playmobil.
Avec tes copains, voilà, c'est tout.
Exactement.
Et ça, c'est ma vision. Et la question à Camille. Donc,
la moitié de l'expérience, c'est vrai que c'est ça, c'est les copains, quoi.
Ouais, bah, c'est un jeu. Alors, c'est vrai que si on attend cette loup solitaire, c'est clairement pas un jeu pour vous. Il faut vraiment pas se dire sur ce jeu si on préfère jouer seul ou on a tendance à jouer seul. Parce que c'est un jeu qui va vous pousser à la coopération. Et d'ailleurs, honnêtement, alors, c'est possible de conduire un bateau tout seul, hein, mais l'intérêt est bien moindre, et de toute façon le jeu a été pensé pour avoir un équipage de 2, 3 ou 4 personnes, et sûrement pas une personne. Vraiment, je tiens à insister sur ce point. Si vous voulez jouer tout seul au jeu, vous pouvez le faire, mais c'est vraiment pas...
Et je rajoute, c'est pas seulement jouer à plusieurs, c'est jouer à plusieurs avec le micro.
Avec le
sans micro,
ouais,
pas intérêt. Ouais. Faut se parler, ouais, faut qu'il se passe des trucs.
Il faut,
tu peux boire du rhum, dégueuler dans un seau.
On va juste
revenir
sur
quelqu'un.
Ta question initiale, Julo. Ouais. Toi, dans ta session de jeu, donc chez Rare, est-ce que donc t'as senti une certaine répétitivité dans les mécaniques? Enfin,
surtout, est-ce que t'as vu autre chose que ce qu'on a fait dans la bêta, c'est-à-dire une carte au trésor, un endroit au creuser?
Alors j'ai vu des choses différentes. Déjà, on a appris une chose, c'est on a appris un peu plus sur le endgame. Alors, on peut pas appeler ça endgame parce que c'est pas un RPG ni un MMO vraiment. Mais en gros, comme vous le savez, le jeu, dans l'intérieur du jeu, il y a des guildes. On peut monter en réputation dans ces guildes, et en fait au bout d'un certain niveau on devient pirate légendaire, et quand on devient pirate légendaire, eh bien, on accède à de nouvelles quêtes, de nouveaux bateaux, une nouvelle zone, etc.
Donc, ah, tu veux dire qu'il y a une zone qu'on n'a pas vue dans la bêta,
voilà,
qui est réservée
aux
joueurs de haut niveau, quoi.
Voilà, aux pirates légendaires, quoi.
Mais alors, ce qu'on a vu dans la bêta, c'est-à-dire quand on parle à un mec qui nous file une carte, on va la récupérer, le coffre, on lui donne, lui c'est une guilde.
Ouais.
Et elle se différencie comment, les autres guildes?
Bah en gros, c'est simplement des quêtes qui vont être différentes dans des lieux différents, avec des accoutrements différents, quoi. Faut pas chercher hyper loin, comme tu disais, c'est un jeu où vraiment le joueur se crée l'aventure. Les quêtes sont là pour faire une liaison, mais en aucun cas pour vous faire un chemin tout tracé. Le chemin, c'est vous qui vous le tracez, en fait. Et ça, c'est vraiment important de le noter, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir une ligne directive, un fil directeur pour pouvoir s'y accrocher tout le temps. Mais là, c'est vraiment un jeu où c'est un peu à la Minecraft, dans le sens où on est livré à nous-mêmes, on est avec nos potes, on décide d'aller là, bah on y va, et puis ah bah tiens, là il y a une quête, on va la faire. Mais c'est pas un jeu où on va suivre une narration, quoi. Il n'y a pas du tout de narration dans le jeu. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de narration.
Ouais, ça, je l'avais compris. Quoi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que est-ce qu'on fait que creuser et...
Bah, malheureusement, moi, de ce que j'en ai vu, c'est vrai qu'on a vu des quêtes un peu différentes. Mais
comme
ça reste...
quoi, par exemple?
En majorité, par exemple, on doit transporter des animaux d'un lieu à un autre. Il faut faire attention parce que les animaux, faut pas les maltraiter dans leur cage. Enfin, faut pas que le bateau bouge trop.
Et là, il semble y avoir aussi des trucs, donc avec des quêtes un peu plus. Comment dire, fantastique.
Ouais, déjà on a appris qu'il y avait un kraken, donc cette fameuse créature.
Cette rumeur est vraie, donc.
Cette créature légendaire qu'on voit dans Pirates des Caraïbes numéro 3, si je me trompe pas. Non, 2. 2.
Le 3, la merde. Celui qui est abominable.
Ouais,
qui non, sert
mais
à rien.
C'est dans le 2 qui est.
Ah mais bon, alors attends, toi,
dans le 3, il est mort.
Tu as vu les séquences avec le kraken?
On a vu des séquences avec le
kraken.
C'est
quoi, c'est comme un combat de boss?
En fait, c'est un combat de boss. Alors, je peux pas vous dire exactement où est-ce qu'il apparaît parce que c'est encore un peu nébuleux. Visiblement, ça serait mettre certaines zones typiques de la map qui seraient plus dangereuses que d'autres. Bah, comme vous pouvez le voir pour les premiers à l'écran, il y a certaines zones où il y a une sorte de nuage en forme de squelette. Ce seraient des zones dites magiques, plus ou moins, où en fait ce seraient des zones dangereuses. Et du coup, le Kraken aurait tendance à sortir à ce moment-là. Après, on n'a pas vraiment des détails là-dessus. En tout cas, c'est hyper impressionnant et le Kraken peut vraiment vous faire couler par le fond. Votre navire, vous envoyez par le fond. C'est
et
vraiment,
alors, on a vu aussi des quêtes où tu transportais des crânes de
ouais,
squelettes.
Des sortes de crânes magiques, parce qu'en fait, les squelettes donc représentent, bon, on va le dire, la majorité des ennemis, mais on a aussi des ennemis un peu plus moins rudimentaires. On a des sortes de mini-boss, des capitaines, etc. Et du coup, on va récupérer des crânes magiques qu'on va devoir envoyer à des PNJ et qui vont nous donner lieu à d'autres quêtes. Mais comme
il y a des PNJ alors.
Il y a des PNJ, ouais.
Et donc il y a des moments où tu vas tomber sur des pirates fantômes, ce genre de trucs.
Ouais, exactement. Autre chose, alors, mais enfin, en tout cas, pour répondre vraiment à ta question précisément, malheureusement, il faut pas s'attendre à une énorme variété de quêtes différentes, parce que ça va surtout venir avec le temps. Mais ce qu'on a réussi, et ça, c'est aussi une info assez exclusive, on a une timeline pour le jeu. On sait que les premiers contenus, gros contenus du jeu arriveront 3 mois après la commercialisation. Donc le jeu sort le 20 mars, absolument. Ça sortira en gros à partir du 20
mars. Mais alors, grosse question, est-ce que ce sera des season pass, donc des choses que tu dois payer, ou est-ce qu'ils veulent pas diviser la communauté et faire ça gratuitement?
Est entièrement gratuit. Enfin, entièrement gratuit.
Une fois que tu l'as payé,
il n'y a pas de season pass.
Il est gratuit au moment où tu l'as payé.
Voilà, c'est ça. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas de contenu payant par la suite, c'est ça?
Ils ne veulent, mais surtout pas séparer la communauté. Donc, la map sera agrandie, ils l'ont assuré. La map sera plus grande. Elle est déjà assez grande, ma foi, par défaut, enfin en mode vanilla. Elle le sera encore plus par la suite. Et évidemment, tout sera accessible de manière gratuite. Par contre, il y aura un système de cash shop pour la customisation. C'est-à-dire que le jeu axe beaucoup de choses sur la customisation. Ah bah là, c'est la fameuse zone légendaire.
Ici là ?
Ouais, ça c'est la zone pirate légendaire.
Ah oui, là effectivement, on voit
des fantômes. On a l'impression d'être dans.
Ah oui, t'es
dans Pirates des Caraïbes.
Le Pirates des Caraïbes, exactement. C'est l'attraction Pirates des Caraïbes pour ceux qui connaissent à Disneyland Paris. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ?
Tu disais la zone va être augmentée au bout de 3 mois.
Ouais, non, c'était l'aspect cosmétique.
Ouais, l'aspect cosmétique qui sera payant.
Enfin, pas entièrement payant, mais disons qu'il y aura des choses qui seront payantes. On pourra customiser son bateau, donc au niveau de la couleur des voiles.
Tu l'as vu, la customisation des bateaux?
Ouais, j'ai vu un peu la customisation des bateaux, alors pas énormément, parce que encore une fois, c'était par Brit qui nous ont montré des
alors
choses.
Qu'est-ce qu'on peut changer dans le bateau?
On peut changer les figures de proue, on peut changer la couleur des voiles, la couleur de la coque et son drapeau. Et super. Apparemment aussi certaines.
Tu peux créer ton propre drapeau pour faire des clans, etc.
Apparemment, on ne pourra pas importer des choses, hein, parce que sinon ça risque de donner des choses un peu pas.
Il y aura sinon, il va y avoir des drapeaux avec des tubs et tout.
Ouais, ou des drapeaux nazis ou ce que tu veux.
Un océan de bits.
Voilà. Et donc, il ne faudra pas s'attendre à ça. Par contre, il y aura apparemment un gros stock de choses à customiser au niveau des couleurs, etc. etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, la customisation, il y aura une partie qui sera payante. Et il y aura des petits ajouts, on l'a appris aussi, c'est sûr à 99%, il y aura des familiers, notamment des perroquets qu'on pourra avoir, et ça fera partie, enfin certains perroquets en tout cas, seront uniquement achetables via le cash shop, et on pourra avoir des interactions, c'est-à-dire que même une personne qui n'a pas acheté le perroquet pourra interagir avec le perroquet d'un joueur, donc c'est plutôt pas mal, on pourra apparemment l'envoyer d'épaule en épaule.
Alors j'imagine que les développeurs, tu as dû leur poser la question, ils comptent exploiter le jeu au minimum sur l'année qui vient. Ils ont un plan comme il y a eu avec des jeux comme Splatoon ou Destiny.
Alors évidemment, ils ont pas dit, parce que pour reprendre par exemple Destiny 2 qui avait des plans sur plusieurs années, et quand on voit le résultat de Destiny 2 qui est un peu catastrophique à l'heure actuelle, ils ont pas voulu non plus se prononcer énormément, mais ils ont dit qu'ils voulaient évidemment au moins sur 2 ans proposer du contenu vraiment quotidien, enfin pas quotidiennement mais
de manière hebdomadaire.
Vraiment des choses qui vont être ajoutées. Bon, faut s'attendre à ce que le jeu soit suivi. Ça, c'est clair et net. C'est un jeu.
J'imagine qu'ils ont prévu des trucs aussi pour Noël, Halloween, ouais, genre des trucs qu'on fait dans les.
Ouais, ils l'ont annoncé aussi. Il y aura des événements estivaux. Du Noël, de l'Halloween, etc. Donc des petits événements comme ça qui vont être matérialisés en jeu. Donc c'est un jeu qui va être sur la longueur suivi, ça c'est sûr et certain. Ça a été pensé pour, puisque comme tu disais, alors, le contenu de base sera pas forcément grandiloquent. Faudra pas s'attendre. Bah, comme disait Plume aussi. Pour
déjà, le contenu de la bêta, moi, je veux dire, on y a joué pas mal d'heures.
Ouais, mais c'est pas un jeu.
Il était très limité, on s'est amusé.
Ouais, mais c'est, comme disait Plume, c'est pas un jeu où tu vas passer comme Kingdom Come 15 heures de suite. Et puis, voilà.
C'est quand même des sessions de jeu pour faire une bonne partie, t'amuser, etc. C'est, nous, on a joué à chaque fois au minimum 2 heures.
Hein. Oui, ça, je suis d'accord.
Mais je te dis, la sensation que t'as, c'est vraiment. Tu joues avec tes Lego, avec tes Playmobil.
Ouais, c'est ça.
Et tu donnes rendez-vous avec tes copains et tu fais une petite session de piraterie. Ouais.
Mais du coup, donc ça sera amélioré avec le temps. Ça, c'est sûr et certain, c'est prévu. Enfin, c'est vraiment leur objectif, c'est vraiment d'agrandir le jeu. Mm-hmm. Et c'est ce qui se rapproche d'un MMORPG. C'est pas un MMORPG parce que il y a pas, par exemple, plusieurs serveurs. C'est un méta-serveur où c'est un peu. Les rencontres, en fait, sont. Je sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais en gros, déjà, tous les pirates que vous voyez. Sont des joueurs pour l'instant. Encore une nouvelle info. Le directeur du jeu nous a dit à demi-mot qu'en gros il y aurait des équipages de squelettes qui se baladeront.
Tu pourras te faire attaquer par des
équipages fantômes, des espèces de vaisseaux fantômes qui t'attaqueront. Ça viendra un peu plus tard.
Mais alors tu parlais d'un seul serveur, c'est-à-dire qu'on est tous sur le même serveur.
Exactement, il n'y a pas de serveur.
Et donc il y a des gens invisibles.
Ouais, c'est un méta-serveur et c'est des zones un peu instanciées en fait, mais pour nous c'est un dollar, enfin c'est invisible.
Parce que moi il y a un truc que j'ai trouvé génial dans la version bêta. Mais on était quand même que, enfin, je veux dire, on était qu'une partie des joueurs qui aura au final. C'est qu'en fait, il y avait un super équilibre entre la solitude de toi et de ton groupe et les moments où tu tombes sur d'autres.
Exactement.
C'est-à-dire que quand tu faisais une partie de 2 heures, tu pouvais tomber une fois ou deux sur un équipage adverse, l'observer de loin avec tous tes coffres dans ta cale et tu disais putain, faut pas qu'il nous attaque. Des fois, il t'attaquait pas, des fois, il t'attaquait. Et puis, des fois, tu rentrais à l'avant-poste et tu te faisais attaquer par des pirates qui attendaient là comme des salauds que t'arrives avec tous tes coffres pour te les piquer. Mais il y avait un équilibre solitude et peur de l'autre.
Bah, c'est exactement
comme dans PUBG, dis donc.
C'est vraiment bien foutu. Ouais, sauf que là.
Mais donc, quand le jeu final va sortir, ils vont garder cette.
Ouais. Par exemple, sur PUBG, c'est vrai que t'as 100 joueurs et t'as 100 joueurs, c'est tout. Là, il n'y a pas de nombre de joueurs spécifiques. Il peut en avoir autant une vingtaine qu'une cinquantaine. Mais ce qui compte, c'est que ça fonctionne par zone un peu instanciée. Et du coup, tu t'es forcément amené à rencontrer des gens. Et comme je disais, c'est des zones instanciées, mais qui sont 1$. Voilà, mais qui sont 1$ pour nous. C'est pas comme dans Guild Wars où on va avoir un micro chargement et puis on sait qu'on rentre dans une instanciée. Là, c'est vraiment invisible. Et on sait.
Comme dans la bêta.
Et autre chose aussi, alors d'un point de vue technique, c'est vrai que je le dis, j'ose le dire, c'est la plus belle représentation maritime jamais faite dans l'histoire du jeu vidéo.
L'eau est juste dingue,
hallucinante, mais vraiment, c'est il y a pas d'autre mot, c'est une splendeur. J'ai jamais vu ça dans un jeu, c'est splendide. Grosse surprise.
La mer s'agite là.
Ouais,
ça
tourne sur Unreal Engine. Grosse surprise parce que honnêtement, c'est du Unreal Engine qui est tellement tweaké dans tous les sens que du coup ça ressemble plus du tout à du Unreal. On était une vingtaine de journalistes et aucun honnêtement n'avait la prétention de connaître le nom du moteur graphique, c'était impossible. Alors que souvent chez Unreal, on se dit ah bah tiens, il y a certains assets, on se dit bah ça c'est du Unreal parce que les
au niveau Unreal de Madrid c'est...
au niveau de la luminosité etc, on se dit ah c'est du Locat. Bah en fait là pas du tout, c'est
Angel, il se marre parce qu'il trouve ça moche, c'est ça?
Non,
en fait je me marre parce que je me dis quand
le jeu est magnifique. On s'en rend pas compte dans les trailers, etc.
C'est super
mais
beau,
le jeu est magnifique.
Mais vous parlez de gameplay redondant. Et en fait, je pense un peu à Viva Pinata par exemple. Qui, tu vois, enfin, je me dis, il y a des super idées, comme souvent chez Rare, mais je sais pas si ça va tenir sur le long terme. Voilà.
Bah, mais
par rapport à ce que tu me dis,
la différence, c'est que là, c'est un jeu multijoueur qui est pensé multijoueur et du coup qui est aussi pensé sur le long terme puisqu'ils veulent agrandir et accentuer le contenu avec le temps, quoi. Mais enfin, pour finir sur le côté technique, le PC Lead Designer nous a affirmé, et d'ailleurs on l'a vu, le jeu tourne sur une patate. C'est leur mot d'ordre, le jeu tourne sur une patate, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur un
petit PC, donc.
Sur un Surface Pro avec un i3, ça tournera en ultra sans aucun problème à 60 FPS.
Ils sont alignés sur la Xbox Fat en fait.
Ouais,
tout simplement.
Et en plus, il n'y a aucune différenciation par exemple d'horizon, c'est-à-dire que l'horizon est le même pour tout le monde. Que tu aies un PC à 2000€ ou une Xbox 360, bah tu auras le même horizon puisqu'ils veulent.
Xbox One, faut pas exagérer quand même.
De quoi ?
Il est pas sur 360
oui, Xbox One, pardon. Tu auras le même horizon, le même champ de vision, puisque en fait à l'intérieur du jeu tu as notamment une longue vue qui est très utile et pour pas gâcher ce système de gameplay, bah tout le monde voit pareil. Et du coup l'horizon est assez lointain et. Il n'y a pas énormément de différence entre PC et Xbox.
De l'intérêt de s'acheter une Xbox One X, non ?
Ouais,
c'est vrai.
Bah, pas pour lui en tout cas.
Bah, ouais. Ah si, juste, si, remarque si, parce que.
Ce qui est étonnant, parce que au final, c'est quand même un jeu édité par Microsoft. Hein.
Le jeu est pensé 4K. Le jeu est pensé 4K.
Oui, tu seras quand même en 4K sur les
HDR. Et HDR.
Oui, puis il y aura des effets en plus. Hein.
Faut pas se leurrer.
Oui, il y a des effets en plus, mais en tout cas, ça peut tourner vraiment en très bonne condition sur un PC très très médiocre. Quand je dis très très médiocre, c'est un PC avec un chipset intégré et même pas de carte graphique. Donc c'est plutôt vraiment très vraiment saluable de la part du studio, puisque comme ils nous l'ont dit, c'est le premier jeu PC de Rare. C'est leur premier jeu. Donc très bonne nouvelle pour ça.
Il y a d'autres choses qu'on sait pas et dont tu peux nous parler.
Alors là, je crois que j'ai fait le tour du truc. Si t'as des questions, je sais pas. Si
non, bah
des
après
questions.
Des sensations pendant que toi tu jouais. On a beaucoup entendu Julo. On a même trop entendu Julo sur sujet. Mais toi, de ton côté,
on a joué entre français. Donc pour te répondre, avec les façons, on est tombé sur des équipages, donc soit les journalistes anglais ou allemands.
Vous les avez défoncés ou pas?
Plutôt sympathique. On est mort une fois et le reste du temps, on a gagné. On est mort à chaque fois.
Ah merde.
Ouais. On est mort à chaque fois, malheureusement.
Ah, mince. Oh, vous avez bien représenté.
On est des mauvais pirates, c'est pas grave. Hein.
Mais du coup, voilà. En tout cas, comme ce que disait Angèle, c'est vrai que moi, c'est toujours le point d'ombre. C'est la potentielle répétitivité et le fait de tourner en rond au bout d'un moment, ça me fait un peu peur. Mais malheureusement, je pense même avec le test du jeu, on pourra pas répondre à cette question.
Pas tout de suite.
Pas tout de suite, quoi. C'est un truc.
Non, mais on pourra juger quand même du contenu qu'il y a immédiatement à la sortie. C'est ce qu'on fait en test pour ce genre de jeu.
Mais ça, comme je le disais, c'est typiquement le genre de jeu qui sera intéressant de retester, par exemple, dans un an, pour voir la différence de contenu. Bah, comme pour PUBG, parce que le jeu a ce type de jeu qui évolue, mais énormément. Enfin, en tout cas, qui ont prétention à évoluer énormément. Et du coup, qui seront, ça sera le jour et la nuit, à mon avis, dans un an.
Oui, et puis de toute façon, on pourra juger de son succès grâce justement au stream qui
vont faire le sel. Il s'attendait pas à ça, mais il a été promis sur Twitch à plusieurs reprises. La bêta a fait un buzz de ouf, quoi. Je pense que le jeu a grimpé en termes de hype d'un seul coup par rapport à.
C'est tout ce qu'on souhaite à Rare.
On a pu en dire rien.
Parce que Rare, bon. Voilà, ouais, je pense que c'est. Enfin,
c'est leur premier bon jeu depuis. On va dire Viva Piñata.
Viva Piñata, moi j'en garde un très bon souvenir. Bien. C'était franchement super
mais
bien.
Mais moi, le grand rare, c'est avant Viva Piñata.
Ouais, voilà. Mais je dois avouer que même pour Viva Piñata, au bout d'un moment, même si c'était très bien, même si le gameplay était super shadé, parce que ça, Rare, on peut pas le enlever, ils ont toujours un gameplay super shadé, super bien pensé, super fignolé. Mais au bout d'un moment, quand même, Viva Piñata. C'était usant parce que tu finissais par refaire tout le temps le même truc et j'ai peur que là ce soit à peu près la même chose.
Depuis la fin de l'époque Nintendo, je pense que c'est le meilleur jeu Rare
depuis Conquer.
Bah Conquer c'est le dernier, ouais, t'as raison, c'est ça. Conquer.
Ouais, Conquer.
Il y avait le premier jeu qu'ils avaient sorti pour
C'était
pour
nul
Microsoft.
Sur Xbox.
C'est quoi déjà?
C'était Grab by the Ghoulies.
Ouais, c'était ça.
C'était nul ça. Bon, bah tant pis.
Après il y avait le Conquer aussi qu'ils ont sorti qui était multijoueur, qui était une vraie merde.
Ouais,
oui, mais il est trop bien quand même.
Ça reste Conquer. Oui, non, en multijoueur.
Le Live and Reload,
il y avait un mode.
C'était une merde.
Mais il y avait le remake et le mode multijoueur ensemble.
Bon, on a coupé Camille, c'est pas bien.
Pardon. De toute façon, c'était bientôt fini, mais c'est toujours un peu simple de dire ça. Effectivement, oui, ils ont fait leur jeu avec amour, parce que des fois, on se rend compte quand même, plus ou moins, dans les paroles des gens. C'est pas que du marketing. On l'a vraiment senti dans la parole des développeurs. Et là, je parle pas uniquement du producteur. Non, on a interviewé pas mal de gens. On sent vraiment, vraiment, dans chacun d'entre eux, c'est leur bébé, quoi. Un peu comme pour Kingdom Come, on sent qu'ils ont vraiment passé beaucoup de temps dessus. C'est un projet qui sont mûrement réfléchis depuis assez longtemps. Et du coup, ça se ressent vraiment à beaucoup de reprises, quoi, à l'intérieur du jeu.
Petite question, on trouvait quand on a fait la bêta qu'il y avait très peu de vie animale.
Ouais, alors ça c'est un truc qui est
genre tu vas sur une île, il devrait y avoir des animaux, ou il y a même très peu de poissons dans l'eau.
Alors
dans la bêta il y avait pas de poissons dans l'eau.
En tout cas ça non, les poissons j'ai pas, au contraire je trouve il y a la vie sous-marine en tout cas est plutôt bien pensée. Par contre effectivement sur les îles c'est un peu vide à part des oiseaux, à part des mouettes et des perroquets il y a pas grand chose. Ça pareil, il y a
peut-être un choix. Hein.
Ouais, c'est peut-être un choix, mais par contre, il y a certains trucs comme des serpents qu'on a pas eu l'occasion de voir dans la bêta, par exemple, qui auront un impact sur le gameplay. On pourra, par exemple, se faire empoisonner par un serpent, on pourra l'utiliser contre les autres joueurs. Enfin, c'est pas. Il y a des petites surprises comme ça qui seront présentes avec les animaux. Et puis, évidemment, les familiers qui arriveront, et à mon avis, il y aura sûrement des singes aussi qui arriveront. Donc voilà, il y a.
Mais tout ça, tu vois, c'est du gadget, quoi.
Ouais, c'est du gadget.
Fondamentalement.
Mais c'est pour l'ambiance, c'est un jeu ambiance aussi.
C'est
quoi.
Un jeu rempli de petits gadgets, t'as raison. Mais par contre, ce que ça crée après dans les parties entre amis, entre joueurs, c'est juste extraordinaire. Et je pense que on a beau l'expliquer, il faut y jouer quoi.
Ouais, il faut vraiment y jouer pour s'en rendre compte parce que
là, quand ton bateau coule comme là, je te jure, et que tout le monde s'active pour coller des planches et tu dois prendre le saut et copier complètement tout ce qu'il y a dans la cale. Qu'est-ce qu'il y a,
Jean-François?
J'ai rien dit. J'ai copié comme Jean-François.
J'ai parlé suffisamment bas pour que personne n'entende.
Ah bah oui, t'as parlé très bas dans ton micro. Je pense qu'il faut y jouer et je pense que la bêta du coup a eu un rôle très très important là. À la fois pour ceux qui ont joué directement et ceux qui ont découvert à travers ceux qui jouaient donc par Twitch, Mixer, etc. Qu'en fait on se marrait trop quand on jouait à ce truc quoi.
Mais c'est vrai que c'est un jeu d'ambiance aussi. Il faut le rappeler encore une fois, mais de nombreuses reprises on se prend à être juste sur le pont de son bateau et admirer le coucher de soleil en attendant d'aller d'une destination à une autre quoi, par exemple. Et cette race de jeu à vous offrir ça comme ressenti, et je sais qu'il y a des gens qui sont friands de ça et voilà.
Bon, on espère qu'en tout cas que ça va bien se passer pour eux et qu'à la sortie on sera en train de chanter les louanges
le 20 mars
sur PC et là,
je sais pas comment ça va se passer pour les tests, mais à mon avis le test il va falloir probablement attendre un petit peu parce que
c'est clair, ouais.
Les serveurs vont être fermés au départ, etc. Il va falloir qu'on le teste à plusieurs.
Ça va être compliqué tout ça.
Voilà, on fera peut-être les fameux tests en cours quoi. On publiera peut-être un premier avis avant de.
Oh, les tests en cours, tu sais ce que j'en pense.
Bah tout le monde fait ça maintenant et en fait c'est une règle logique quoi.
Ouais, bah ouais. Puis deux jours plus tard, t'as plus le même avis et puis trois jours plus tard, t'as encore plus le même avis.
Non, disons que au fur et à mesure que
jour
1,
le jeu est génial. Jour 2, bon, bah c'est de la merde.
Tout à fait.
Jour 3,
c'est assez rare pour être souligné, je suis d'accord avec.
Voilà.
Tu vois. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé par exemple avec Crossing Souls. J'étais beaucoup plus enthousiaste au début que sur la fin.
Mais c'est-à-dire, ça correspond parfaitement à l'esprit pirate d'avoir un journal de bord.
C'est vrai.
Oh là 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 là.
Mais d'ailleurs, pendant la bêta, j'ai voulu faire un journal de bord, mais bon, la bêta durait pas longtemps. Mais franchement, on avait telles histoires à raconter après les premières sessions de jeu que t'avais envie de faire un journal de bord.
Moi, j'ai envie de fonder une guilde. Bon, j'ai un jeu de mots à tout à l'heure, la guilde de Maupassant, mais c'est tout.
Avec la guilde de Maupassant.
Voilà, c'est tout. Ouais. C'est tout ce que je voulais faire. Donc, le 20 mars prochain sur PC Xbox One, c'est Sea of Thieves. Et donc, vous avez eu de nouvelles infos grâce à Camille qui s'est rendue chez Rare. Et c'est ainsi qu'on va finir ce podcast.
Oui, parce que Camille doit partir, il doit aller chez Rockstar.
Oui,
chez,
absolument, ouais.
Chez là, Ubisoft Montréal.
Là, il s'est invité chez tout le monde en fait. Voilà, hein, donc. Voilà, c'est la vie de Camille, c'est comme ça. Peut-être que vous allez avoir un nouveau reportage dans un autre studio à partir de la semaine prochaine, ou pas. J'en profite pour remercier tout le monde, évidemment.
Julo, merci à tous.
Camille, Angèle.
Ce gros con d'Angèle.
Ce connard d'Angèle.
Ce connard d'Angèle.
Non, on dit toujours ce connard d'Angèle. Non, ça reste.
Non, toujours été ce connard d'Angèle.
Depuis 17 ans, pour moi, c'est ce connard d'Angèle.
Ouais, à peu près. Ouais, écoute, ça fait une épitaphe plutôt cool. Ce connard d'Angèle.
Voilà. Oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas.
On pourrait faire ça, mais le plus tard possible, évidemment. Merci Poufy et aussi à la Sono, comme d'habitude. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau podcast de la rédaction. Alors, normalement, la semaine prochaine, on va revenir à nouveau en direct pour l'enregistrement. Là, c'était dans des conditions particulières parce qu'on a des NDA plein la gueule. Donc forcément, il fallait qu'on les respecte pour que vous puissiez avoir les infos en temps et en heure. La semaine prochaine, ça devrait enfin redevenir normal avec une petite Eve qui parlera avec vous sur le chat de la Gameblog TV et sur Twitter. Et on parlera notamment la semaine prochaine d'une extension d'un jeu PC qui était très attendu et que Camille a pu vous faire aussi. On n'avait pas le temps cette semaine, on le fera la semaine prochaine. C'est Rise and Fall pour Civilization 6. On en parlera évidemment la semaine prochaine avec d'autres choses, de l'actu, d'autres jeux qu'on aura testés. Bref, tout ça, ce sera pour la semaine prochaine. Allez, bisous, ciao.
Salut à tous, ciao.